Vous écoutez
RMC.
Merci Laurent, avec le micro ouvert, ça marche mieux. Les deux affiches de Ligue 1 que l'on suit dans cette intégrale foot avec Sepsio Selsé au CERN et Le Havre Montpellier au CERN avec Fred Joly. Salut Fred.
Salut tout le monde, bienvenue à la Baie des Champs. Et c'est tombé il y a quelques heures seulement, ce sera un match à guichet fermé. Plus de 17 000 spectateurs dans l'enceinte de la Baie des Champs pour ce au CERN. 0-0 après 3 minutes de jeu. Avec d'un côté une équipe d'Auxerre qui réussit plutôt bien à domicile. 3 victoires sur ses 4 matchs à domicile. Seul Monaco est venu s'imposer ici. Et puis Rennes qui a un petit peu de difficulté à l'extérieur. Du côté des compositions, du côté d'Auxerre, Léon évidemment dans les buts. Hoover, Diomandé, Joubal, Akpa et non pas Ocho qui est toujours légèrement touché au genou, même s'il est sur la feuille de match. Mais il est remplaçant Akpa. Puis Mensa compose cette défense à 5. Danois, Ovuzo à récupération. Perrin anime le couloir droit. Traoré le couloir gauche. Et Baird a été choisi pour être à la pointe de l'attaque auxerroise. Du côté de Rennes, 4-2-3-1 choisi du côté de Julien Stéphan avec Mandanda dans les buts, Truffert, Roux, Ostigard, Atbourg, Matusiwa et Camara sont à la récupération. Blas sera lui à l'animation juste derrière Kalimuendo, alors que Jota sera à gauche et Andrés Gomez sera à droite de cette équipe rennaise. Le score est 0-0 après 4 minutes de jeu à la Baie des Champs.
Et grosse ambiance à la Baie des Champs, Fred, à tout à l'heure. Christophe Lécuyer pour Le Havre Montpellier. Salut Christophe.
Salut Marina, bonjour à tous. C'est parti ici, effectivement, au stade Océane, 0-0 depuis 3 minutes dans ce qu'on peut appeler, Marina, un match de la peur, hein, évidemment, entre deux relégables. Le Havre 17e, Montpellier 18e. Les deux séries sont incroyables pour les deux formations. 6 défaites consécutives pour Le Havre, 4 défaites de suite pour Montpellier. Bref, malheur au vaincu du côté de la composition des deux formations. Pas de réelle surprise du côté du Havre avec Sangante et Opéry qui sont suspendus, tout comme Casimir, retour de Kouzaïev dans le groupe et qui débute sur le banc. Titularisation de Yanis Zouaoui sur le côté gauche de la défense. André Ayou est à la pointe de l'attaque, alors que du côté de Montpellier, l'infirmerie est blindée, comme depuis le début de la saison. D'ailleurs, s'ajoute à ça la suspension du capitaine Savanier de Zodic. Première apparition de la recrue serbe Nikola Maksimović. C'est un solide défenseur de 32 ans. Il est aligné dans l'axe de la défense montpelliéraine. 4 minutes de jeu ici devant un petit peu plus de 16 000 spectateurs à Océane. 0-0.
Et il y a beaucoup d'événements sportifs en cours. La F1, le hand également. Mais je reviens vers toi, Fred, rapidement. Il y a une frappe
Auxerroise. Ouais, exactement. Bien tenté de la part du jeune Kevin Danois. Il a contrôlé pied gauche, pied droit. Il s'est remis sur le bon pied. Il a vu qu'il avait de l'espace. Et bien, il a tenté. Il a frappé. C'est passé au-dessus du but de Mandanda. Mais c'est une belle tentative de la part du milieu récupérateur de cette équipe auxerroise, des Bourguignons, qui ont bien, pour l'instant, vraiment bien débuté cette rencontre. Même si après 5 minutes et 20 secondes de jeu, le score est toujours de 0-0 entre Auxerre et Rennes.
Et ça a bien débuté également ce Grand Prix de Formule 1 du Brésil. Mon cher Jean-Luc Roy, salut à toi. On a vécu le départ avec toi il y a quelques minutes. Et ben, un petit point avec toi là pour après un quart d'heure de course.
Oui, salut Marina, salut Seb. Effectivement, c'est une belle bagarre là, hein, vraiment. On est au 11e tour des 70 tours de ce Grand Prix du Brésil sur le circuit José Carlos Pache. La piste est toujours humide pour le moment. Et la remontée de Verstappen est absolument sidérante là. Il a gagné plus de 10 places en 10 tours, donc c'est remarquable. Là, il vient de prendre l'avantage à l'instant sur Liam Lawson pour s'emparer de la 6e position. Rends-toi compte, il est parti 17e pour le moment. C'est toujours la course qui est menée par Georges celle qui est devant avec la Mercedes. Il contient la McLaren de Lando Norris qui est en deuxième position à 1 seconde 3. Le troisième, c'est toujours le japonais Tsunoda avec la RB qui précède le français Esteban Ocon avec l'Alpine. Quatrième, Charles Leclerc est cinquième seulement. Voilà, Charles Leclerc va être maintenant sous les feux de l'attaque de Verstappen. Lawson septième, Piastri huitième, Alonso neuvième, Gasly tient le point de la 10e place pour le moment. À début vraiment de Grand Prix en fanfare sur une piste qui reste très humide, hein, pour le moment. Et quelques nuages noirs s'annoncent tout près du circuit. Donc, il va falloir passer par la voie des stands pour chausser les pneumatiques full wet. C'est ce que nous allons savoir dans quelques minutes, Marie.
Oui, peut-être encore des péripéties dans ce Grand Prix, décidément, après ce week-end perturbé. À tout à l'heure, Jean-Luc, bien sûr, pour suivre ce Grand Prix. Il y a également un choc au sommet, Seb, de notre championnat de handball, la Star League. Et c'est Morgane Maury qui est sur place pour ce choc entre le PSG et Montpellier qui tient ses promesses.
Oui, bonsoir. Montpellier mené d'un but à la pause, mais accélération du Paris Saint-Germain en balle dès les premiers instants de cette deuxième période. Paris a compté 3 unités d'avance grâce notamment à Elohim Prandi. 8 buts pour l'international français, mais Montpellier en balle vient de réduire l'écart grâce à leur meilleur buteur cette saison, Villeminot. Sa 3e réalisation, 21 pour le Paris Saint-Germain en balle, 19 pour le Montpellier en balle. 43 minutes dans ce choc du haut de tableau. Montpellier et fait partie du groupe des deuxièmes avec une défaite, tandis que Paris est premier invaincu dans ce championnat.
Il est serré ce choc. Merci Morgan. Un point, un score rapidement sur les deux pelouses de Ligue 1. Bah, c'est facile, il n'y a pas de but encore. Hein. Auxerre, Rennes 0-0 et Le Havre Montpellier 0-0. On revient tout de suite avec Seb Piocelle, l'intégral foot. Petite pause sur RMC, à tout de suite.
RMC, intégral foot.
Marina Lorenzo.
Avec Seb Piocelle, poursuivi bien sur les deux affiches de Ligue 1 qui ont débuté à 17h. Auxerre, Rennes, Le Havre Montpellier. Il y a également de la F1, il y a du handball, mais le foot, bien sûr. Fred, on revient vers toi parce que il y a eu une discussion, en tout cas. On en est où de ce probable but auxerrois?
Eh bien, il n'y aura pas but, apparemment.
Il n'y est pas. Bon,
il y a main.
Ouais, il y a une main dans la surface de l'apparition. T'as raison, ouais, apparemment. Alors, attends, il y a Léon qui sort. Et ensuite, oui. Oh là, oui. Ensuite, il marque. Ouais, il marque, certes, mais il marque de la main, hein, je crois, notre ami.
Calimundo,
il marque de la main. Il y a eu un petit coup d'œil sur la vidéo. Ça n'a pas duré bien longtemps et le but n'a pas été validé. 0-0 entre Auxerre et Rennes après 12 minutes à la Baie des Champs.
Mais dans les intentions, on a des Rennais plus entreprenants que des Rennais, des Auxerrois plus entreprenants que des Rennais. Ça, ouais, tout ce qu'on voit.
Comme disait Fred, Auxerre, ils sont hyper intéressants à domicile. Hein, encore une fois, guichet fermé. Ils savent faire les choses à la Baie des Champs et c'est une équipe difficile. C'est un vrai test pour Rennes qui va un petit peu mieux de se déplacer à Auxerre, et je pense que ça va plutôt être une équipe équilibrée. Le fait que les Rennais aient le ballon, c'est tout à fait logique par contre.
Oui, des Rennais pas très flamboyants, assez irréguliers effectivement. On va voir ce que donne cette affiche. Les deux derniers du classement s'affrontent également en ce moment. Le Havre face à Montpellier, c'est le match de la peur. C'est pour toi, Christophe. Hein.
Ouais, et pour l'instant, il n'y a pas de but. On espère qu'on aura le plaisir de vous en commenter. Évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de but. Il n'y a pas d'occasion non plus dans ce match où évidemment on sent une certaine tension et c'est bien logique, hein, entre ces deux équipes. On le disait tout à l'heure en préambule, les séries sont assez incroyables. 6 défaites de rang pour le Havre, 4 défaites de suite pour Montpellier, qui n'a pas réussi à enclencher une nouvelle dynamique malgré l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc. C'était le week-end dernier, une première défaite à domicile sur le score de 3-0. Il a opéré 2 changements d'ailleurs, Jean-Louis Gasset, par rapport au match du week-end dernier. Mwanga et Savagnier, alors lui c'est contraint et forcé parce qu'il est suspendu, sont sortis du 11. Et puis Maximovic, la nouvelle recrue serbe, alignée en défense avec le jeune Chateau également. Attention, on va suivre avec ce contre justement pour les Montpellier, avec Cor Adams. Il a peut-être été bousculé, pas de faute, indique Stéphanie Frappard qui laisse Le Havre récupérer ce ballon et peut-être placer justement un bon contre avec Zouaoui là-bas sur le côté gauche. 2e titularisation de la saison pour l'ancien Martégal. On va chercher peut-être Cacheta qui est démarqué. On est à 30 mètres début de Lecomte. Le ballon est mis dans la surface de réparation et c'est renvoyé par la défense Montpellier-Rennes. La 14e minute de jeu ici au stade Océane devant près de 18 000 spectateurs. J'étais un petit peu modeste tout à l'heure en vous disant qu'on était 16 000. J'en avais oublié 2 000. Allez, 18 000 pour ce Le Havre-Montpellier 0-0.
C'est pas mal pour un Le Havre-Montpellier, ouais. 18 000. Franchement, alors ils ont besoin de leur public, hein, les Havrais, mais surtout pour Montpellier. Si jamais il devait y avoir défaite, alors qu'il y a eu changement d'entraîneur déjà, il serait vraiment, vraiment à la traîne. Et en termes de rebond, ça serait pas évident. Je t'ai pas écouté, Christophe, mais en cas de défaite du Havre, pour l'instant, par rapport à Didier Digard, que moi j'apprécie énormément, il est soutenu.
On a posé la question à Mathieu Bonnemer en Roison Park après la défaite à Rennes le week-end dernier. Mathieu Bonnemer, le directeur sportif du Havre, a réaffirmé son soutien à son entraîneur. On sait que, au-delà évidemment d'être collègues de travail entre guillemets, ils sont aussi amis dans la vie depuis longtemps. La question ne se pose pas, dit Mathieu Bonnemer, dans l'immédiat. Alors Seb, tu sais qu'il y a un autre argument évidemment à prendre en compte ici au Havre. Évidemment, c'est financier. C'est que se séparer de Didier Deschamps, ça veut dire le licencier, ça veut dire recruter un nouvel entraîneur, et financièrement, c'est très très tendu du côté du Havre. Par contre, c'est aussi très tendu entre Didier Digard et les supporters. D'ailleurs, on se posait la question de savoir quel accueil allait être réservé aux techniciens Havrais. Nouvelle bronca du stade Océane tout à l'heure, alors que pourtant Didier Digard nous assurait qu'il y avait eu des discussions avec les supporters, que tout s'était soi-disant arrangé, que tout le monde était ressorti de cette discussion en se disant que finalement tout le monde cherchait le même objectif, à savoir des résultats positifs, et que c'était l'Union Sacrée. La réponse, c'est que finalement l'Union Sacrée attendra, parce que des sifflets ont accueilli tout à l'heure le nom de Didier Digard lorsque le speaker a annoncé le technicien. En vrai, les relations restent donc distantes.
C'est important, Christophe, ça reste quand même le soutien de son groupe.
Bien sûr.
Même si ça fait jamais plaisir, et puis les supporters, on les comprend, ils payent leur place. Ils ont déjà vécu une fin de saison dernière un peu compliquée, mais ils sont en Ligue 1, ils l'avaient attendu depuis des années, là c'est quand même la deuxième année consécutive. Donc enfin moi à leur place, voilà, je soutiendrai mon équipe jusqu'au bout, sachant qu'on est seulement la 10e journée.
Exactement. J'ai un très bon coup franc pour les Havrais, Marina et Seb. On est à 27 mètres des buts de Benjamin Lecomte.
J'aurais dit 28, Christophe Lamont, ici, mais bon.
C'est jouer rapidement. Ouais, bah pour le coup, c'est mal joué. J'aurais dû m'abstenir. Je sais pas cette combinaison si elle a été travaillée cette semaine par Didier Digard. On a essayé de chercher Yassine Kachta. On s'est pas forcément compris et ça a été dégagé par la défense montpellierenne. On a franchi le quart d'heure de jeu ici au Stade Océane, toujours 0-0 dans ce Le Havre-Montpellier.
Le score n'a pas bougé, Fred, non plus à Auxerre-Rennes.
Non, exactement. 16 minutes de jeu 0-0 avec une occasion auxerroise à l'instant. Hein. C'est venu du côté gauche par Mensah, le centre pour Perrin qui combine avec Baer. Le ballon finit par revenir sur Baer qui tente de reprendre comme elle arrive, mais il n'a pas assez de puissance, assez de force et le ballon termine tranquillement dans les gants de Mandanda. Ça s'anime, une rencontre qui s'est équilibrée. Les Rennais essaient d'amener le danger devant le but de Léon et puis les Auxerrois répondent. Donc pour l'instant, on assiste à 17 premières minutes plutôt agréables, même si le score est toujours de 0-0.
Elles ont toutes à prouver, les équipes sur le terrain de Ligue 1 là, qui sont en train de s'affronter. Donc effectivement, il faut s'attendre à de l'animation. On l'espère dans cette intégrale foot, de l'animation aussi sur le Grand Prix de Formule 1, sur le circuit d'Interlagos au Brésil. C'est Jean-Luc Roy qui nous commente cela et Verstappen poursuit sa remontée.
Ah oui, c'est fabuleux là, le travail que fait Verstappen. Là, il bute évidemment un petit peu sur la Ferrari de Charles Leclerc, qui lui-même est dans les roues de l'Alpine d'Esteban Ocon au quatrième rang, toujours très brillant depuis le début. Et puis c'est Yuki Tsunoda qui mène ce peloton de 4 monoplaces. Tsunoda est en 3e position. L'écart s'est creusé hein, entre Tsunoda, le 3e, Lando Norris, toujours dans les roues du leader George Russell depuis le début de ce Grand Prix. Les deux hommes sont vraiment très très proches l'un de l'autre, mais pour le moment, Norris n'a pas été en mesure de placer une véritable attaque sur la Mercedes de tête. Alors derrière, ça bouscule énormément et on voit Hamilton en grande difficulté. Il vient même d'être dépassé successivement par Carlos Sainz, qui est lui parti depuis la voie des stands avec sa Ferrari. Et puis maintenant, à l'instant, par Oliver Burman, le jeune Britannique, le jeune rookie, qui n'en est qu'à son 3e Grand Prix et qui vient prendre, tenez-vous bien, l'avantage sur Lewis Hamilton, maintenant repoussé au 15e rang avec la 2e des Mercedes. Il se plaignait d'ailleurs à la radio auprès de son ingénieur d'une tenue de route aléatoire, Lewis Hamilton. Pour le moment, donc, alors que 20 tours ont été couverts sur les 70 à parcourir, j'ai pas eu le temps de te dire qu'il y a 291 000 spectateurs malgré le déluge. Donc c'est vraiment la passion toujours qui s'exprime ici au Brésil. Hein. D'ailleurs, on évoquait, on célébrait la disparition malheureusement d'Ayrton Senna, vous le savez tous, disparu le 1er mai 1994 à Imola. Ça fait donc 30 ans, et bien là on a eu tout un tas de cérémonies et d'évocations de cette disparition. La Formule 1 est toujours aussi passionnée ici et donc pour le moment bataille en tête entre Russell et Norris, 8 secondes derrière on a un quatuor avec Tsunoda, Ocon, Leclerc et Verstappen. Ensuite on trouve encore un rookie, Liam Lawson, le jeune néo-zélandais, 7e, devant Piastri 8e, Gasly 9e et Alonso 10e.
Allez, une course passionnante, un public passionné. Jean-Luc, on se retrouve tout à l'heure. Un petit point handball également, Morgan Mori, parce qu'on a l'impression que le leader continue de creuser l'écart, c'est ça?
Oui, le Paris Saint-Germain handball est en train de construire son invincibilité, de construire sa victoire. 25-20 pour le Paris Saint-Germain handball face à Montpellier, bien aidé par un incroyable Elohim Prandi. 10 buts pour l'international français. Il reste un peu plus de 7 minutes dans cette rencontre. 25 pour le Paris Saint-Germain handball et 20 pour le Montpellier handball.
Au Serène, Le Havre-Montpellier, les deux matchs de Ligue 1 que l'on suit dans l'intégrale foot, pas de but pour l'instant dans ces deux parties. Après 20 minutes de jeu à peu près, une petite pause Seb et on revient pour suivre tout cela ensemble bien sûr.
RMC, intégrale foot,
Marina Lorenzo.
Toujours avec Sébastien Piocel, bien sûr, pour cette 10e journée de Ligue 1. Auxerre-Rennes, Le Havre-Montpellier. Les deux matchs sont en cours. Auxerre-Rennes, c'est avec Fred Joly. Fred, il y a eu une petite frayeur pour les Rennais il y a quelques instants.
Ah, ça s'anime. À la Baie des Champs, il y a eu une tentative tout d'abord rennaise avec la frappe de Jota qui a été freinée par Jouba, décapitée tranquillement par Léon. La frappe également d'Andrés Gomez qui a terminé dans les gants du portier auxerrois. Alors qu'il y a un coup franc à suivre, voilà. Et ça va sortir. Et puis il y a eu cette belle occasion auxerroise, Traoré, qui récupère un ballon à 25 mètres, il se retourne, il se remet sur son pied droit, la frappe est enroulée, elle tourne bien, elle tourne très très bien, mais elle vient mourir sur le poteau gauche de Mandanda. Les auxerrois sont passés tout près de l'ouverture du score et surtout ils se sont offerts l'occasion, la plus nette dans cette rencontre après 25 minutes de jeu. La rencontre est très ouverte, il y a vraiment des tentatives et des occasions de part et d'autre, mais le score est toujours 2-0 à 0 entre Auxerre et Rennes.
Une belle occasion, c'est vrai qu'elle était belle, celle, cette frappe de Traoré. Traoré. Hein.
Ouais, et puis on en parle souvent. Traoré, c'est vraiment la belle recrue de cette équipe auxerroise. En tout cas, la belle trouvaille. Et,
la petite pépite, ouais, c'est sûr. Ouais,
et je pense qu'ils ils vont pas garder longtemps, mais dès qu'ils touchent le ballon, il se passe quelque chose.
Ouais, ouais, c'est vrai. Montpellier qui affronte Le Havre au stade Océane. Christophe Lécuyer, on a vu un premier round d'observation, le premier quart d'heure. Et là, c'est quoi? Avantage plutôt au WAC?
Ouais, dans la possession, mais possession stérile à Marina, 63% de possession pour les Havrais qui ont tiré à trois reprises au but, 4 maintenant avec ce retourné acrobatique là d'André Ayou dans la surface de réparation, mais c'est pas cadré. 2 tirs montpellierains, mais toujours pas un seul tir cadré, ni d'un côté ni de l'autre, d'où cette domination stérile. Et deux gardiens qui pour l'instant, en tout cas, passent un début de soirée relativement tranquille. On sent, on le disait dans ce round d'observation, pas mal de tensions liées à l'enjeu hein, du résultat qui aura forcément des conséquences sur le classement. Malheur au vaincu, évidemment, on le disait tout à l'heure, 18 000 supporters là aussi, je vous l'évoquais. Je vous ai pas parlé de la petite vingtaine de montpellierains qui ont fait le déplacement. Ils sont pas très nombreux et pourtant cette semaine ils étaient plus nombreux hein, se rendre du côté.
Le but au serveur, oh qu'il est beau ce but. Un ballon récupéré à l'entrée de la surface de réparation après une première tentative de Hoover. Ça revient dans les pieds de Perrin. Perrin, il contrôle. Il laisse l'an gentiment rebondir le ballon avant de frapper sèchement à ras de terre. Mandanda ne peut rien faire. Et Perrin donne l'avantage à la JOCR et signe son 2e but de la saison. La JOCR mène 1-0 après 27 minutes de jeu.
Le voilà, le premier but de ce multi. Un mot sur ce but, Seb.
Bah déjà il est magnifique. Alors la relance elle est pas bonne, un plein axe, mais c'est surtout l'enchaînement contrôle de la poitrine et puis demi-volée pied gauche là. Mandanda il peut rien faire, ça prend beaucoup de vitesse. Et je trouve que ça vient récompenser le bon début de match des agilistes là face à Rennes.
Ils sont sur une très bonne dynamique, ils ont fait un nul spectaculaire contre l'OL la semaine dernière et quelques victoires effectivement très intéressantes pour ce promu. Christophe, je reviens vers toi, Le Havre Montpellier, parce que tu allais nous parler de l'intervention des ultras montpellierains hein, cette semaine à l'entraînement.
Ouais, ça s'est passé mercredi, effectivement ils étaient environ 300 à venir exprimer leur colère auprès des joueurs. Ils ont quelque part menacé les joueurs de potentiel retour ici. Faites en sorte qu'on n'ait pas à revenir, ont-ils dit, indiquant évidemment qu'il y avait une obligation de résultat, alors que là les Havrais réclamaient un pénalty dans la surface de réparation pour une faute potentielle montpelliéraine. Rien du tout, dit Stéphanie Frappard. On va voir si évidemment ça va être checké, parce qu'il y a un Havrais qui reste dans la surface de réparation. Il y a André Ayou là qui parle avec Madame Frappard justement, qui réclamait une faute. Bon, on n'a pas eu le retour d'image en tout cas.
On l'a eu Christophe. Ouais. C'est pas flagrant. Il y a le bras, il y a le coude un petit peu sur le visage de Kechta.
Ouais, de Kechta, ouais. Mais en plus, c'est limite ligne. Hein. Je suis même pas sûr qu'elle soit complètement
dedans. C'est la surface, mais
ouais, c'est dedans.
Pour moi, je pense pas qu'il y ait faute.
Bon, en tout cas, pour l'instant, elle n'a visiblement pas été appelée par le VAR, Madame Frappard, et le jeu va pouvoir reprendre avec une remise en jeu pour les Havrais. En tout cas, Didier Digard, lui, il avait cru au pénalty. Hein. Il s'était levé de son banc de touche, l'entraîneur Havrais, évidemment, réclamant ce coup de pied de réparation, mais rien du tout. Et le jeu qui va pouvoir reprendre par cette touche en faveur des Havrais sous les sifflets, vous l'entendez, du public d'Océane. On en reste à 0-0 dans ce Le Havre-Montpellier.
Les deux derniers du classement qui s'affrontent. Tu disais, Seb, toi, le danger ou la crainte, elle est plus sur les épaules des Havrais ou des Montpellierains là aujourd'hui?
Enfin, moi, plus pour Montpellier, parce ouais. qu'ils viennent de changer d'entraîneur avec Jean-Luc Gasset.
Kechta dans la surface de réparation, Kechta la frappe, l'arrêt du pied de Benjamin Lecomte, le face-à-face raté par le milieu de terrain du Havre. Attention, ça va vite repartir de l'autre côté avec un contre justement pour les Montpellierains, avec un ballon dans la surface de réparation pour Adams. Le centre, ça a été contré, il avait appelé le ballon, l'attaquant montpellierain. Ce sera un corner, ça va très vite d'un but à l'autre dans cette partie qui s'emballe, Seb.
Ouais, c'est sur il a l'air à la rue, hein, Maximovic, déjà la recrue. Alors en même temps, ça peut se comprendre, il a pas joué depuis le mois de mai, donc il est titularisé.
Oui,
et il semble un petit peu lent, donc c'est vrai que par rapport au petit profil Havrais, là on voit un Kechta, encore une fois, ouais. C'est lui qui vient s'intégrer là. Et puis je pense pas qu'il a manqué, il fait un super barré le compte, parce qu'il fait comme un gardien de hand là, mais c'est vraiment la plus belle opportunité hein, pour les Havrais.
Ouais, indéniablement la plus grosse occasion de cette partie, elle est Havraise pour Yacine Kechta, mais on est donc très vite reparti de l'autre côté. C'est un corner à suivre pour le Montpellier-Hérault, de la droite vers la gauche, lorsque l'on regarde le but d'Arthur Desmas. C'est Wabi Kazri qui va le frapper. C'est tendu, c'est au deuxième poteau. La reprise, la remise d'Adams, la reprise, elle est contrée, elle est déviée dans la surface de réparation. C'est dégagé en catastrophe par la défense havraise. Il y avait le feu encore une fois devant le but d'Arthur Desmas, des Havrais qui s'en sortent pas trop mal. La 29e minute de jeu, 0-0 dans ce Le Havre Montpellier.
Allez, un mot de handball avec toi, Morgane Maury, parce qu'on est dans les dernières secondes du match entre le PSG et Montpellier.
Le Paris Saint-Germain de balle va s'imposer dans cette partie. 29-23, ballon pour les Montpellierains qui vont tenter un dernier shoot. La balle est à terre. Victoire pour le Paris Saint-Germain de balle qui préserve son invincibilité. 29 pour Paris, 23 pour Montpellier. 11 réalisations pour Elohim Prandi, le Parisien. Grosse deuxième période défensive des Parisiens. Ils ont maintenu Montpellier à 8 buts seulement en deuxième période. 29-23 pour Paris face à Montpellier. Paris reste leader du championnat.
Et oui, 9e journée de ce championnat de handball. Merci beaucoup Morgane. Victoire 29-23 donc du PSG handball. Le Grand Prix de Formule 1 du Brésil à Interlagos avec Jean-Luc Roy. Jean-Luc, on revient vers toi.
Oui Marina, et là ça s'est beaucoup beaucoup agité là très récemment dans les deux derniers tours. Pourquoi ? Eh bien parce que l'as de Hülkenberg est parti en tête à queue. Il était immobilisé sur le bord de la piste. On a dans un premier temps sorti le drapeau jaune et puis ensuite le virtuel safety car. C'est le cas actuellement. Et donc du coup, évidemment, les pilotes en profitent pour repasser par la voie des stands. D'autant que la pluie a redoublé de violence. Donc du coup, on monte des pneumatiques neufs. Alors c'est le cas dans l'ordre pour Russell, évidemment, qui était toujours leader. Pour Norris, qui l'a suivi également. C'était au 29e tour. Nous sommes maintenant dans le 30e tour. Et puis on a vu s'arrêter aussi Tsunoda. Charles Leclerc est repassé pour la voie des stands. Piastri également. Alonso. C'est le cas aussi. Alors, je surveillais ce qui se passait pour Verstappen. Eh bien, Verstappen n'est pas repassé par la voie des stands. Il se retrouve maintenant donc deuxième à 6 secondes exactement de Ocon. Eh bien, on peut dire qu'une Alpine aura mené ce Grand Prix. Alors, évidemment, on est sous régime de virtuel safety car hein, pour le moment. Mais Esteban Ocon aura mené ce Grand Prix alors que le virtuel safety car devrait s'effacer bientôt, ce qui va permettre à Ocon de repartir devant Verstappen et Gasly. Les trois hommes ne sont pas repasser par la voie des stands. Eh bien, on aura eu deux Alpines dans les trois premiers de ce Grand Prix du Brésil aux alentours du 30e tour. C'est quand même à noter et c'est absolument formidable.
Et ça se poursuit bien sûr le Grand Prix de Formule 1 avec toi Jean-Luc. Il y a un match qui vient de débuter également, un match de foot en Angleterre, la Première Ligue. Aurélien Tirsin, Manchester United contre Chelsea.
Salut, 0-0 après 1 minute 30 secondes de jeu à Old Trafford. Match très important pour les deux équipes, mais surtout pour Manchester United qui voit sur le banc s'installer Ruud van Nistelrooy. Il sera encore là pour le prochain match de Ligue Europa. En attendant, Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting Portugal. C'est l'ère post-Eric Ten Hag. Manchester qui n'est que 13e de cette Première Ligue anglaise. Donc l'objectif, c'est de se relancer très vite face à Chelsea cet après-midi. 2 minutes de jouer, 0-0 face aux Blues.
La Première Ligue, la Ligue 1 également, c'est Auxerre qui mène face à Rennes. Pas de but pour l'instant entre Le Havre et Montpellier. Une petite pause, l'Intégral Foot revient pour suivre bien sûr ces trois affiches de foot et aussi la F1, le Grand Prix du Brésil. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot,
Marina Lorenzo
et Sébastien Piocel pour cette nouvelle après-midi de foot de Ligue 1, de Première Ligue. La Ligue 1 bien sûr en priorité avec la J Auxerre qui mène toujours sur sa pelouse face à Rennes. On est avec toi Fred Joly. On en est où de ce match?
37 minutes de jeu effectivement. La J Auxerre mène 1-0 alors que le jeu est interrompu. Mensa qui a mis une petite baffe dans le nez d'un Rennais. Voilà, on va rendre le ballon du côté de Rennes. La J Auxerre sous les applaudissements de ce stade à guichet fermé, plus de 17 000 spectateurs présents. Ils sont plus de 200 Rennais à avoir fait le déplacement. Et on avait déjà fait le constat à Seb contre Reims, la possession de balle elle est rennaise, mais voilà, les Auxerrois quand ils ont le ballon eh bien, ils savent quoi en faire. La preuve avec ce but marqué, ce poteau trouvé par Traoré. Les Auxerrois qui une nouvelle fois occupent vraiment bien ce terrain, laissent les moments forts aux Rennais pour repartir encore plus vite. Et en tous les cas, même si pour l'instant le ballon est dans les pieds justement des Rennais, c'est bien la J Auxerre qui mène 1-0 avec ce but inscrit par Perrin.
Avec des Rennais toujours aussi poussifs, on les a vus gagner d'une manière compliquée le week-end dernier. C'est pas très flamboyant. Hein.
Ouais, alors bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif. C'est une nouvelle ère hein, du côté du stade Rennais, donc il faut que ça prenne aussi. Alors ils ont le ballon, mais en face c'est un très bon bloc médian de la part des Auxerrois. Comme disait Fred, en fait c'est leur animation qui veut ça. La récupération, ça va très vite vers l'avant, changement de rythme. Ils ont des joueurs rapides, et c'est pour ça que là, avec cette ouverture du score, ils sont dans une bonne position les Bourguignons.
Décidément, ce Grand Prix de Formule 1 du Brésil, on va retrouver Jean-Luc Roy parce que les péripéties se poursuivent. Drapeau rouge.
Oui, absolument, à l'instant, Marina, puisque une très grosse sortie là de Franco Colapinto, le jeune pilote argentin qui a tapé assez fort. Bon, apparemment, pilote indemne, hein, mais le côté gauche de la monoplace, oui, il vient de dire à la radio à son ingénieur.
Et de deux pour Auxerre. Auxerre. Oh, la contre-attaque, un exemple de contre-attaque, c'est parti de très loin, le ballon dans la profondeur pour Perrin qui est, mais alors, seul au monde, complètement seul au monde sur le côté droit. On ne sait pas où est la défense, elle n'est pas revenue, elle est dans les nuages, elle a la tête ailleurs. En tous les cas, Perrin récupère le ballon et tranquillement va battre Mandanda et permet, après 39 minutes à la Auxerre, de mener 2-0.
Ouais, c'est bon, on parlait de l'inconstance rennaise. Là, ils se sont fait prendre aussi assez facilement, non, par ces Auxerrois.
Ouais, c'est surtout comment ils sont placés. On est parti de Léon, leur gardien, et sans vraiment mettre trop de vitesse, hein, la passe de Traoré, elle est aussi magnifique parce qu'elle est dans le bon timing. Et puis derrière, Perrin qui va marquer son deuxième but. Là pour le coup, j'ai envie de dire oui, c'est une très belle contre-attaque, mais il n'y avait pas eu tant de vitesse que ça. C'est surtout que techniquement, c'est très bien joué avec la dernière passe de Traoré.
Alors, on revient vers toi, Jean-Luc, parce qu'on t'a coupé le drapeau rouge sur le Grand Prix de Formule 1 du Brésil.
Oui, bon, je rassure tout de suite, hein, Franco Colapinto est sorti tout seul, oui, de l'épave de sa Williams. Effectivement, là, il a tapé très fort, hein, dans la courbe très rapide tout en haut du circuit, et malheureusement, ça a occasionné, oui, très très violent, effectivement, l'aquaplaning. Là, il ne pouvait rien faire, il a perdu toute adhérence. Heureusement, les monoplaces sont très résistantes, tu le sais maintenant, donc le pilote est totalement indemne, c'est le métier qui rentre, hein. C'est un rookie, évidemment, Franco Colapinto, qui avait remplacé Logan Sargeant au sein de cette équipe Williams. Et malheureusement pour les nombreux supporters, les milliers de supporters argentins, puisque tu le sais, il n'y a pas de Grand Prix d'Argentine au calendrier du championnat du monde de Formule 1 actuellement, donc ils étaient venus de l'Argentine voisine pour ce Grand Prix du Brésil à São Paulo, et c'est évidemment l'effondrement et la désolation du côté de l'équipe Williams, parce qu'il était sorti aux essais également, le jeune pilote argentin, et on avait beaucoup beaucoup travaillé pour remettre les monoplaces sur la piste, et on sait que du côté de Albon, eh bien, on n'a pas pu remettre cette monoplace en état, donc c'en est terminé des histoires des espoirs de Williams. Alors je te donne les positions quand même, parce, oui, que c'est intéressant. Eh bien, les trois pilotes qui ne se sont pas arrêtés, c'est-à-dire Esteban Ocon, leader de ce Grand Prix, qui va donc repartir en tête lors du nouveau départ devant Verstappen, qui ne s'est pas arrêté non plus. Verstappen parti 17e, je le rappelle, qui était dans les roues d'Ocon depuis un moment, depuis l'arrêt de Charles Leclerc. Le troisième, eh bien, c'est Pierre Gasly. Donc les deux Alpines au premier et troisième rang de ce Grand Prix du Brésil. On trouve ensuite Lando Norris. Alors là, il faudra regarder ça tout à l'heure, parce qu'à mon avis, Lando Norris a dépassé Russell sous régime de safety car, parce que avant qu'on sorte le drapeau rouge, eh bien, on avait sorti le safety car du côté de la direction de course. Pourquoi ? Parce que la visibilité était devenue vraiment totalement nulle, hein, sur ce Grand Prix. La pluie tombait vraiment avec véhémence. Donc pour le moment, Ocon, Verstappen, Gasly, Norris, Russell, Tsunoda, Leclerc, Piastri, Alonso et Lawson. Voilà les pilotes qui sont rangés dans la voie des stands. Là, je peux te dire que la neutralisation va durer un bon moment. Premièrement, il faut évacuer, oui, la monoplace et les débris de la Williams de Franco Colapinto. Et puis ensuite, eh bien, on a le droit, bien sûr, de changer de pneumatique. Et je pense qu'on n'est pas reparti avant, allez, une bonne vingtaine de minutes dans ce Grand Prix du Brésil.
Bon, tu nous tiens au courant, on revient vers toi, évidemment, dès que l'on voit que ça bouge. Merci Jean-Luc pour ces précisions. Drapeau rouge sur le Grand Prix de Formule 1 du Brésil. Le Havre-Montpellier, on revient à la Ligue 1. Christophe, parce qu'on a la sensation, là, en tout cas aux images, que Montpellier tente davantage sa chance qu'en début de match.
Ouais, là, il y a eu une incroyable partie de billard dans la surface de réparation à Brest. C'était chaud pour les Normands. La 42e minute de jeu, 0-0. C'était chaud pour les Normands, mais sur l'occasion d'avant, c'était pour la défense montpelliéraine que c'était un peu compliqué, une occasion improbable d'ailleurs pour les Havrais. C'est parti d'un dégagement de la défense montpelliéraine, en l'occurrence de Jordan Ferry à la suite d'un corner, et Jordan Ferry qui a tiré dans Abdoulaye Touré, et le ballon qui est reparti en direction du but et qui finalement est passé juste à côté du montant gauche du but gardé par Benjamin Lecomte. Une partie qui a tendance à se tendre également sur le terrain. Stéphanie Frappard a dû sortir à deux reprises, là, le carton jaune dans l'espace de quelques minutes. Gauthier Lloris, le Havrais, a été averti pour une faute sur Arnaud Nordin, et puis quasiment dans la foulée, c'est Jordan Ferry et qui a écopé d'un avertissement pour avoir annihilé un contre en faveur des Havrais. Un petit peu moins de 3 minutes à jouer dans cette première partie, dans cette première mi-temps très crispante entre le Havre et Montpellier, 0-0.
Ouais, crispante, mais avec un rythme peut-être qui commence à s'activer un petit peu. En tout cas, vu les enjeux, de toute manière, c'est le match où il faut que ça se développe. Hein.
Ah oui. Pour prendre des points, alors c'est vrai que c'était sur un faux rythme là, depuis le début du match, depuis 10 minutes, un quart d'heure, c'est un petit peu mieux. On voit les Montpelliérains un peu plus haut. Et c'est là aussi où il pourrait être aussi en danger avec la lenteur, on va dire, la défense axiale montpelliéraine. Mais il y a des joueurs de talent hein, devant, même si Kadri, il a plus ses jambes de 20 ans, il a à tout moment, il peut faire quelque chose d'intéressant. Et puis c'est surtout Nordin, pour moi, qui offensivement aujourd'hui est le joueur qui peut faire mal au Havre.
Le Havre-Montpellier, donc pas de but pour l'instant, 0-0. Auxerre-Rennes, Fred, je reviens vers toi. Qu'est-ce que l'on... Ouais, non, là, on est clairement en train de revoir le deuxième but auxerrois, mais sinon, la tendance.
Oui, bon, ça va, ça se passe bien, écoute. Ça se passe bien pour les Auxerrois, un peu moins bien pour les Rennais, malheureusement, pour eux, même si ils essayent, ils sont menés 2-0. On a vu tout à l'heure un tacle de Mensah, un vrai tacle de patron, un tacle d'homme. Christophe Pélissier disait cette semaine, on doit se montrer plus dur et plus présent et plus physique sur le terrain. Voilà, c'est la Ligue 1, ça joue vite, ça joue plus vite. Et on a besoin d'être plus présent et de mettre plus le pied pour vraiment déstabiliser l'adversaire. Et c'est ce qu'a fait parfaitement Mensah tout à l'heure en nous offrant un superbe tacle rageur sur Andrés Gomes. En tous les cas, les Auxerrois, ils mènent au score, ils mènent 2-0 alors qu'il y aura une faute à suivre. Il y a eu un choc entre la tête de Blas et celle de Ovuzum, semble-t-il. La Auxerre mène 2-0. Il reste 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire.
On parlait tout à l'heure de Didier Digard, position compliquée à tenir au HAC. On se pose la question aussi pour Julien Stéphan, parce que vu c'est toutes les années un peu la même chose. Rennes qui a forcément des ambitions, mais là, le début de saison, il n'est pas à la hauteur.
Ouais, alors encore une fois, il a des circonstances atténuantes avec beaucoup de changements dans l'effectif, avec des joueurs aussi qu'il n'a pas forcément choisi, donc c'est une autre manière de fonctionner du côté du Stade Rennais. Forcément, quand on a des ambitions comme Rennes et que on vivote un petit peu dans le championnat là, on n'est jamais à l'abri. Mais c'est vrai que pour l'instant ça tarde un petit peu, on voit pas exactement ce qu'il veut mettre en place. Et il y a beaucoup de joueurs importants à l'image de Bourigeaud par exemple qui sont partis. Et aujourd'hui voilà, c'est devenu pour l'instant, en tout cas depuis le début de saison, une équipe un petit peu lambda de notre championnat où ils alternent le très moyen et le pas bon du tout.
Mais il faut s'habituer à ça du coup un peu avec Rennes.
Non, je pense qu'il faut un petit peu de temps. Par contre, il y a du talent. Il y a des joueurs aussi qui doivent prendre leur marque. C'est un nouveau club pour eux. Mais c'est vrai que Julien Stéphan n'est pas à l'abri.
On est rentré dans les arrêts de jeu, en tout cas Auxerre, Rennes, 4 minutes d'arrêt de jeu. Je vais juste me tourner vers Aurélien Tiercin parce qu'il y a une occasion pour Chelsea, c'est ça, en première ligue à Old Trafford.
Oui, ça chauffe sur le but d'André Onana, 0-0 après un quart d'heure de jeu. Et Wesley Fofana, le défenseur français de Chelsea, qui a, grâce à un coup de tête, d'ailleurs il a mis un coup de tête dans la tête de Madueke, ils se sont mis à deux et le ballon a terminé sur le poteau d'Onana derrière Colwill. Tire dans le petit filet. Bref, Chelsea domine assez largement cette équipe de Manchester United qui est en crise après 15 minutes 0-0.
La mi-temps au Havre.
C'est la mi-temps, ouais. On n'a pas tiré la ligne alors au Havre.
Non, puis pas de temps additionnel ici au stade Océane. Madame Frappard qui renvoie les 22 acteurs sur ce score de 0-0 au terme d'une première période assez agréable finalement, et score assez logique de 0-0 entre les deux formations.
0-0 entre le Havre et Montpellier, ce match, on vous le rappelle, entre les deux derniers du classement de notre Ligue 1. On est dans le temps additionnel, Fred Joly, pour Auxerre-Rennes.
4 minutes, je demande où les chercher ces 4 minutes. Enfin, il y en a 4 en tous les cas, voilà, c'est tout, c'est comme ça.
C'est toujours étonnant, c'est traditionnel, on ne sait pas.
Oui, alors, surtout qu'il y a rien eu quoi, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a rien eu d'exceptionnel. 4 minutes, alors, t'as d'un côté un match où il n'y a pas du tout de traditionnel, et là 4 minutes, enfin
c'est
bon, il en reste. Oui, c'est ça, peut-être aussi, peut-être que l'arbitre il est bien, il se plaît, il s'éclate, il voit un match sympa, ça joue bien. On se fait plaisir, on voit des buts, on voit des belles choses, ça se passe dans une bonne ambiance, hein, puisqu'il y a eu qu'un seul petit carton, et encore, c'était pas pour une faute très très méchante pour Mathieu Siwa qui a pris un carton jaune. Il y a un corner à suivre pour les Rennais. Alors qu'il reste 2 minutes à jouer sur les 4 minutes de temps additionnel. Le corner, la Auxerre mène 2-0. Petite explication dans la surface de réparation. Évidemment, on met la pression sur Léon du côté de Rennes avec deux joueurs tout proches du gardien. Auxerrois, le ballon qui va s'envoler dans le ciel Auxerrois, la tête de Joubal pour éloigner le danger, peut-être la tentative, non finalement c'est dégagé, enfin dégagé c'est un grand mot, une longue très haute chandelle auxerroise, cette fois-ci ça va être récupéré par Danois qui n'a pas pu glisser cette balle sur le côté, ça va revenir sur le côté gauche de cette pour cette équipe rennaise. Le débordement, le centre, non, finalement va-t-il pouvoir la mettre devant le but, non, ce sera touché, ce sera un nouveau corner. Deuxième corner pour le stade rennais, toujours du même côté, ses places qui se précipitent au point de corner pour tenter de mettre, essayer de mettre cette balle dans la surface de réparation. Il va falloir rapidement jouer du côté de Rennes. Il reste 55 secondes à jouer sur les 4 minutes de temps additionnel. La jeu se termine 2-0. Une nouvelle explication de texte dans la surface de réparation. C'est entre Kelimuendo et Mensa que ça se frictionne un petit peu. Rien de bien méchant. Le corner. Allez, il faut Blas maintenant mettre cette balle dans la surface de réparation. À hauteur du point, enfin à hauteur des 5m50, ce serait parfait pour un coéquipier. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est pas mal fait d'ailleurs. Mais c'est surtout dégagé par la défense auxerroise. Et ce sera un coup franc à suivre pour la JOCR. Joubal a pris un petit coup de boule. Il reste au sol le capitaine brésilien. Alors que le public a pensé que c'était la mi-temps, je crois pas que c'est soufflé. Non, il a soufflé un coup franc. Le public va à la buvette. Après tout, il se dit c'est bon, on mène 2-0, on va aller boire un coup, hein, parce que c'est comme ça. Ah, voilà, ça y est, voilà, ils avaient anticipé, ils avaient été bons sur ce coup-là. En tous les cas, la JOCR mène 2-0. Le doublé de Gaëtan Perrin pour la JOCR.
Et la JOCR provisoirement 10e du classement de Ligue 1 avec cet avantage pour l'instant au score sur sa pelouse face à Rennes. Pas de but entre Le Havre et Montpellier. C'est donc la pause sur les deux terrains de Ligue 1. On va en profiter, nous, sur RMC, pour parier, évidemment.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Yoann Guillet, surtout. Salut Yoann.
Salut messieurs, dames.
Salut tout le monde.
On parie sur quoi?
On parie sur Auxerre-Rennes.
Ouais, deuxième période.
J'avais bien senti, pour le coup. Je vais m'arrêter là. Auxerre annoncé vainqueur à 3,40 en avant-match. Si ça tient, c'est bon pour moi. Auxerre est à 1,16. Maintenant, forcément, ça s'est complètement inversé. Le nul est à 5,80. Rennes est à 12,50. Eh bien, écoutez, je vois une gestion auxerroise en seconde période et je vais rester sur le score de 2-0, qui est à 3,85.
Ah, il se mouille pas trop.
Il se mouille pas trop. Il annonce une mi-temps sans but.
L'équipe qui marque le prochain but.
Ah, tu veux que ce soit qui? Auxerre ou Rennes?
Allez, Rennes, pour qu'il y ait un peu de suspense.
1,80.
80.
Ouais.
Alors je vais aller sur le 2-1 pour Auxerre.
2-1 pour Auxerre, côté à 3,85. Voilà, même code que moi. Ouais. On dit que tu te mouilles pas non plus, c'est ça?
Non, je te suis, t'es un connaisseur.
Super, merci Seb, merci beaucoup Yoann Guillet, tous les autres paris sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
17h50 sur RMC, vous êtes dans l'intégral foot, toujours avec Seb Piocelle. C'est la pause sur les deux terrains de Ligue 1, Auxerre Rennes et Le Havre Montpellier. En revanche, la première ligue joue toujours. On est dans la première période. Aurélien Tirsain, Manchester United, Chelsea.
0-0 après 20 minutes. Chelsea qui archi-domine. Poteau touché d'ailleurs par Noni Madueke. Mais Manchester, c'est vraiment très très compliqué cette saison.
Et ça continue de se confirmer. Effectivement, on va voir le résultat final, bien sûr, de cette première ligue. Petite pause, bien sûr, et on revient pour suivre les affiches de Ligue 1. Seb, on est sur RMC. Ne restez-vous avec nous, à tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Avec Sébastien Piocelle, avec les deux affiches de Ligue 1 de 17h. On est toujours dans la pause, la mi-temps. On reprendra ça dans quelques instants, bien sûr, avec nos envoyés spéciaux sur place. Mais on va s'intéresser à l'affiche de la soirée qui te parle forcément, mon cher Seb. Nantes-Marseille pour clore cette 10e journée. C'est Jeannot Rességuier qui est avec nous, qui va nous commenter ce match, bien sûr, ce soir. Salut, cher Jeannot.
Bonsoir Marina, bonsoir Sébastien.
Salut Jeannot.
Avec la première question évidemment qu'on se pose, c'est savoir si Marseille va pouvoir réagir, rebondir après son dimanche précédent compliqué.
Alors personnellement, j'ai pas la réponse, mais j'espère pour Roberto De Zerbi, faire oublier la gifle du classique et en plus avoir l'opportunité en gagnant à Nantes d'être deuxième en cas de victoire, malgré tout, hein, avec la défaite de Monaco face à Angers, l'équipe de Lille qui a été tenue en échec face à Lyon. Donc voilà, ils peuvent encore se retrouver deuxième, les Marseillais. Alors sans Harit qui est suspendu, qui n'a pris qu'un match par rapport au rouge qu'il a reçu, je dis qu'un match parce que Savani en a pris deux, hein, par rapport aux joueurs qui ont été expulsés lors de la précédente journée. Est-ce que cette équipe-là va pouvoir démontrer qu'elle a du caractère, qu'elle a tourné la page et que tout s'est bien passé cette semaine, ce qui est le cas au niveau des séances d'entraînement? La réponse, on l'aura ce soir. Après, Roberto De Zerbi va très certainement envoyer des messages clair, précis à chaque joueur. Il l'a commencé déjà pour Greenwood, souvenez-vous, sorti à la mi-temps, qui a apparemment fait une bonne semaine, nous disait Florent Germain. Donc logiquement titulaire ce soir. L'interrogation, ce sera de savoir comment il va s'organiser sans Harit et s'il va plus titulariser Neil Mopé que Eli Wai.
Oui, et voir comment effectivement Seb, ça va être ça l'enjeu dans les premières minutes, voir s'ils seront remis la tête à l'endroit au moment d'aller affronter Nantes à la Beaujoire, parce que forcément ça trotte dans les têtes cette claque face à Paris.
Ouais, mais comme on dit, il a quand même du matos. Il a quand même le. Alors c'est sûr qu'Harit fait plutôt un bon début de saison et puis il a un profil un peu atypique par rapport aux autres milieux de terrain de l'OM. Mais il a de quoi faire. Bien sûr que l'opportunité avec la défaite de Monaco, les deux points perdus par Lille en fin de rencontre, forcément, ça leur laisse la possibilité de recoller, alors loin du PSG, mais en tout cas de revenir sur Monaco. Donc c'est ça qui est beau dans le football. Il y a toujours le match d'après. Là, la grosse claque dans le classico. Et puis en face, il y a une équipe de Nantes aussi. Qui avait fait plutôt un bon début de championnat, mais qui commence à être dans le dur quand on voit voilà Auxerre qui est en train de gagner, Toulouse qui a gagné, donc eux aussi là il faudrait qu'ils prennent des points, donc ça va être une belle rencontre, j'espère, avec forcément l'OM qui sera pour moi quand même favori lors de cette rencontre là mais voilà, l'OM a une bonne opportunité. Et puis moi j'aimerais voir aussi, voilà, on a beaucoup parlé de Deserbi en bien, il n'y a pas de problème depuis le début de la saison, mais voilà, s'il devait y avoir une contre-performance encore aujourd'hui, on pourrait commencer un petit peu à se poser des questions.
Oui, comment on va juger
le... À part le 5-0 à Montpellier, il y a eu la défaite à Strasbourg, le nul contre Angers. L'humiliation de la première période contre le Paris Saint-Germain.
Il y a des gros à affronter encore, hein, si on regarde aussi.
Ils sont vraiment dans l'obligation de relever le défi, de sortir la tête de l'eau. Alors tu l'as dit, Nantes en plus, c'est 6 matchs sans victoire. Le 31 août dernier contre Montpellier. En plus, je regardais sur l'année 2024, ils n'ont gagné que 2 fois. Après le 0-0 au TFC la première journée, ils font 2-0 contre Auxerre et à Montpellier 3-1. Donc voilà, c'est une équipe qui est pas bien, ça il faut le reconnaître. Un coach qui commence à être un petit peu discuté. Bon, j'ai presque envie de dire que
c'est logique.
À l'habitude.
Une fois qu'il reprolonge, il est discuté. Donc,
voilà, c'est ça, exactement. Bon, ils vont être privés quand même de Le Penant, qui est ce joueur qui leur a apporté vraiment cette touche technique. Après, reste à savoir s'il sera Comboiré tenté par une défense à 3 avec Palois, Zézé, Castelletto, ou alors une défense à 4 sans Palois et avec donc Cosa côté gauche et Coco côté droit, en associant Castelletto à Zézé, ce grand espoir du football nantais.
T'en dis quoi, Sabouret ?
Ouais, alors peut-être qu'il... Ouais, je pense qu'il jouera à 4. Après, il peut relancer Palois. Alors Le Penant, en plus, ce qui était étrange, c'est que le week-end dernier, il était remplaçant.
Oui.
Alors que je me suis dit, ils ont peut-être un match de prévu dans la semaine, mais bon, c'est pas le cas. Mais il y avait lui et Thierry Vella, donc dans les choix après d'Antoine Comboiré, bon, c'est les siens. Mais c'est vrai que.
Je suis au Moulet, Le Penant.
Ouais, donc il était quand même sur le banc. Ouais, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas voulu prendre le risque.
Peut-être qu'il n'était pas apte à démarrer et que derrière, ça s'est pas.
En tout cas, par rapport au début de saison, c'est vrai que c'était le joueur au milieu de terrain, en plus d'avoir des statistiques, voilà, qui mettait le lien entre le milieu et l'attaque. Après, ils ont quand même des armes de vitesse. Et le Marseille aussi de Deserbi, dans le déséquilibre aussi, il y a des choses à faire à la récupération du ballon pour les Nantais si ça va vite vers l'avant. Et ils ont quand même des armes avec des joueurs de vitesse comme Simon ou comme Ablin. Voilà. Après, ça va être une question d'être bon dans les deux surfaces. Et les Nantais auront des possibilités, ça c'est sûr. Il y en a toujours contre l'OM. Il y a beaucoup d'espace. Mais après, voilà, il faudra être clinique et chirurgical pour s'imposer face à Marseille.
Non. Un déplacement un peu particulier pour deux joueurs, hein, Valentin Rongier qui peine à retrouver une place de titulaire, hein, lui avec il souffre après l'arrivée de Rabiot, et puis Quentin Merlin de retour dans le groupe après 2 mois d'absence après sa blessure à la cuisse lors du rassemblement de septembre avec les espoirs de Gérald Batic, peut-être titulaire, en tout cas c'est ce que laissent entendre peut-être nos confrères de la Provence avec Lirola et Merlin, tous les deux en balance, alors qu'il a repris cette semaine l'entraînement collectif, l'ancien Nantais.
Eh ben merci beaucoup mon Jeannot pour toutes ces infos. On te retrouve tout à l'heure évidemment pour ce match Nantes-Marseille, dernière affiche de cette 10e journée, alors que c'est sur le point de reprendre sur les pelouses d'Auxerre, Auxerre-Rennes et Le Havre-Montpellier. On va y aller dans un instant dès que ça reprend. Peut-être un petit point Première Ligue. Aurélien Tiercin avec toi, Manchester United-Chelsea.
Toujours 0-0, c'est pas un grand match pour l'instant. 31 minutes de jouer et l'attaquant de Manchester, Rasmus Højlund, qui vit une sale période. Il n'arrive pas à contrôler un ballon. Pour l'instant, Wesley Fofana et Malo Gusto, notamment les deux Français de Chelsea, qui assurent derrière. 0-0, 31 minutes de jouer à Old Trafford.
Et le coup d'envoi de la deuxième période, Le Havre-Montpellier vient d'être donné, Christophe Lécuyer.
Ouais, c'est à refaire finalement, mais ça ne saurait tarder. Voilà, le coup de sifflet de Stéphanie Frappard pour le coup d'envoi de cette seconde période. 0-0, on le rappelle ici à Océane, entre Le Havre et Montpellier.
C'est sur le point de reprendre à Auxerre d'ici quelques instants. Viens te voir, Fred Joly, Auxerre-Rennes. Mais avant cela, la Formule 1, Jean-Luc, parce que le Grand Prix va reprendre. Ça y est, on est au Brésil.
Oui, absolument, oui. Marina, ça y est, la procédure est engagée. Maintenant, d'ici deux minutes seulement, on va partir derrière le safety car, toujours piloté par Bernd Melander, qui est en charge. C'est une mission très importante, la preuve, et ce sera un départ lancé, hein. Donc les monoplaces ne vont pas s'arrêter sur la grille. Alors a priori, on est toujours pour le moment sur 69 tours, mais je pense qu'on va en enlever un, logiquement. Peut-être on ira sur 68 tours. On est dans le 34e des donc 69 tours pour le moment de ce Grand Prix. Ça veut dire qu'on n'a même pas fait une moitié exactement. Alors bien sûr, on a eu le droit de changer les pneumatiques lors de cet arrêt, lors de ce drapeau rouge dans les stands. Les mécaniciens sont intervenus et a priori, d'après ce que je peux voir, eh bien on a monté toujours les pneumatiques intermédiaires, alors que juste avant l'arrêt, hein, lorsque la pluie s'est mise à tomber, juste avant le drapeau rouge, eh bien quatre pilotes avaient chaussé les pneumatiques full wet, les pneumatiques pour la pluie. C'était le cas de Tsunoda, de Lawson, de Tsu et de Perez notamment. Donc tout le monde repart avec des pneus neufs derrière le régime de safety car. Et évidemment, ça va être absolument passionnant parce que c'est une deuxième course qui démarre maintenant. Alors je rappelle qu'Esteban Ocon évidemment est en tête, le pilote français avec l'Alpine. Il ne s'était pas arrêté au stand. C'était le cas également de Verstappen, parti 17e, actuellement 2e. Le 3e, c'est Pierre Gasly. Donc les deux Français aux première et 3e place de ce Grand Prix. Derrière, il y a Lando Norris qui était le poleman mais qui avait été devancé par Russell tout à l'heure. Norris donc 4e, Russell 5e, Tsunoda le japonais de RB 6e, Charles Leclerc est 7e avec la Ferrari, Oscar Piastri 8e avec l'autre McLaren, Alonso est 9e avec la Aston Martin, Liam Lawson est 10e, Hamilton 11e, Bottas 12e, Sainz 13e, Perez 14e. Et puis ensuite, on trouve Berman et Tsu. Voilà, 16 pilotes au départ de cette deuxième partie du Grand Prix. Ça va partir dans quelques secondes maintenant, Marina. Les pilotes sont rangés derrière le safety car.
Merci Jean-Luc. Jean-Luc Roy pour la Formule 1 au Brésil. La Ligue 1 avec Auxerre-Rennes, Fred Joly. On est sur le point de lancer la deuxième période.
Exactement, dans quelques petits instants, puisque on attend le coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre, alors qu'il y a du changement du côté de Rennes. Voilà, le coup de sifflet, vous l'avez sans doute entendu. Du côté de Rennes, il y a eu trois changements avec Santa Maria, Faye et Guiri. Ils sont entrés sur cette pelouse de la Baie des Champs pour les sorties de Matusiwa. Il y a également la sortie de Wu et une autre sortie, le numéro 28, Camara. Voilà, du changement du côté de Julien Stéphane. On a sans doute envie de bouger un petit peu cette équipe rennaise qui est menée au score par la JOCR 2-0. Le doublé de Gaëtan Perrin. Le coup d'envoi de cette seconde période a été donné il y a 35 secondes.
Allez, le point, le temps, le score sur la pelouse du Havre face à Montpellier, Christophe Lécuyer.
La 49e minute ici à Océane, 0-0.
Et une petite page de pub. L'intégral foot revient pour suivre ces deux affiches de Ligue 1, bien sûr. À tout de suite.
RMC Intégral Foot, Marina Lorenzo.
Avec Sébastien Piocel et avec nos envoyés spéciaux sur les terrains de Ligue 1, sur les terrains de Première Ligue, Auxerre-Rennes avec Fred Joly, Le Havre-Montpellier avec Christophe Lécuyer. On va venir te voir peut-être, Fred Joly. Auxerre-Rennes, tu nous disais tout à l'heure que Julien Stéphan avait fait des changements à la pause pour essayer d'inverser cette tendance qui lui est négative.
Oui, sans doute Julien Stéphan pas très content de ce que son équipe a fait comme prestation pour ses 45 premières minutes et qui a donc décidé de procéder à quelques changements. Pour l'instant, on voit une équipe rennaise qui joue assez haut, qui essaie de réagir, même si en face du côté de la JOC, on est évidemment bien concentré, on est évidemment bien bien en place, que ce soit défensivement ou même dès qu'il faut ressortir cette balle et tenter d'aller vers l'avant. Les Rennais qui sont en possession du ballon, ils sont menés 2-0 avec Faye qui est entré il y a quelques minutes, remplaçant Wu en défense centrale de cette équipe rennaise. Le ballon est en rond central, on ne sait pas trop quoi en faire du côté de Rennes, de cette balle peut-être par-dessus. Non, finalement il y a le pressing de Baird qui est venu, qui est tenté de venir déstabiliser les défenseurs, mais c'est toujours dans les Pyrénées. Le score est à l'avantage de la GECR, il mène 2-0. Le doublé a été inscrit par Perrin en première période.
Tu pariais tout à l'heure, ça voit sur un but rennais, t'y crois
Déjà, par rapport au changement opéré, mis à part en défense centrale, mais sinon le fait d'avoir réaxé Blas et l'avoir mis dans les deux milieux de terrain et de relayeur pour orienter le jeu et d'avoir fait rentrer Guiri pour jouer derrière Kalumendo, on change un peu d'animation. C'est une équipe quand même plus offensive sur le terrain. Mm-hmm. Et donc ils risquent, ils avaient déjà le ballon, mais d'être peut-être plus haut. Après, ils peuvent se faire contrer toujours, mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a des intentions pour rapidement revenir au score.
Le Havre-Montpellier avec toi, Christophe Lécuyer. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, les tendances, les statistiques pour le HAC, ils ont beaucoup de mal à marquer. Sur les quatre derniers matchs, ils n'ont pas réussi, tout simplement, à voir s'ils arrivent à débloquer ça ce soir.
Ouais, et puis sans Casimir, sans Joujou, ça complique évidemment la tâche pour Didier Digard, même si là, les Havrais ont bien failli scorer. C'est parti d'une belle action emmenée par André Ayou, le décalage pour Yacine Keshta, le centre de Keshta à l'entrée de la surface de réparation, la reprise pied gauche d'Ndiaye, ça a été boxé difficilement par Benjamin Lecomte. C'est la plus belle occasion à Havraise dans cette entame de seconde période. 55 minutes de jeu, toujours ce score de 0-0, un match toujours engagé, avec encore un avertissement sorti par Madame Frappard, cette fois-ci pour le Havrais Salmier, coupable d'une faute, un duel engagé là sur Cazerie qu'on va retrouver d'ailleurs au corner là pour les Montpelliérains, de la droite vers la gauche face au but de Desmas. Wabi Cazerie, c'est parti au point de pénalty, c'est dégagé par Targa Aline difficilement, le contre est peut-être favorable aux Montpelliérains, finalement c'est envoyé par une tête havraise, le ballon qui est toujours en l'air, mais ça va revenir encore une fois pour les Montpelliérains. C'est peut-être pas complètement terminé avec Sako là sur le côté qui temporise un petit peu pour Cazerie. Maintenant le centre de Cazerie, il a été contré, on en reste à 0-0. On a le sentiment que ce match nul n'arrangerait personne, et pourtant Seb, que finalement ne pas prendre de but, c'est peut-être avant tout ce que cherchent les deux formations.
Ouais, je sais pas, en tout cas là, ça me semble un petit peu tôt, mais je pense quand même que pour ces deux équipes là, au moins là, dans les 20 prochaines minutes, essayer de remporter le match, ça serait bien. Surtout, j'ai envie de dire, voilà, le Havre, ils sont à domicile. On sait que Didier Digard, il est en difficulté. Ça fait 6 matchs sans victoire. C'est 6 matchs sans victoire ou c'est même 6 défaites?
Ah, c'est même 6 défaites.
Ouais, 6 défaites. Et là, tout à l'heure, on s'est fait couper. Mais c'est vrai que la problématique aussi de Montpellier, c'est qu'ils ont déjà changé d'entraîneur. Ils ont pris une grosse claque à domicile la semaine dernière.
3-0.
Donc là, s'ils devaient encore perdre, alors on voit que c'est mieux dans les intentions. Ils ont un groupe un bloc un peu plus compact. Mais ça veut dire qu'il y a très très peu de leviers. Et un peu comme le Havre, Montpellier n'a pas d'argent. Donc ouais. Pareil, ils ont fait Maximovic, mais ils sont vraiment, voilà, ça va être très très compliqué quand on voit des équipes comme Angers, comme Auxerre, qui eux aussi vont certainement jouer le maintien, qui arrivent à gagner.
Keshta dans la surface de réparation, Ayou qui essaie de se retourner, c'est dégagé, ça revient sur Targaline. Keshta encore une fois, les Montpellier hein, là, qui font face à un temps fort havrais. On a reculé du côté des Normands, dommage parce qu'on était à 20 mètres, il y avait possiblement une occasion de but, même si la possession est en Havraise hein, dans cette entame de seconde période. On va retrouver le capitaine Abdoulaye Touré qui va écarter là-bas. Sur le côté maintenant, retrouver une solution avec Ndiaye dans l'axe, c'est dommage, on s'est pas compris entre Ndiaye et André Ayou. Ça peut être récupéré par la défense montpelliéraine. La 57e minute de jeu dans ce Havre-Montpellier, toujours 0-0. Encore une fois les Havrais avec Targaline, on est à 20 mètres au début de Lecomte. Targaline qui va décaler Yacine Keshta, on est à gauche, le 1-2 entre les deux Marocains. On a cherché Ndiaye à l'entrée de la surface de réparation, c'était un petit peu téléphoné. 57 minutes de jeu, on en reste à 0-0.
Ouais, 0-0, c'est vrai qu'on parlait du match de la semaine dernière de Montpellier, dans les attitudes, dans ce qu'on voit quand même, on n'a pas la même équipe. La semaine dernière, on a l'impression qu'ils étaient carrément pas sur le terrain, quoi, les Montpellier.
Ouais, ils avaient pris deux buts très très rapidement contre Toulouse à domicile. Là, c'est mieux, mais ils jouent aussi contre une équipe malade, donc peut-être que ça les aide aussi. Mais voilà, pour l'instant, au moins les Havrais se rapprochent de la surface. Le petit Keshta là, il fait vraiment un bon match. On arrive souvent à le trouver là dans les bonnes zones. Après, il faut concrétiser. Et là, pour les buteurs, il y a André Ali qui est là. Hein. Il s'est marqué des buts aussi.
Ouais, temps fort Havrais, hein, quand même. Hein, Marina et Seb avec encore un corner à la suivre pour les Normands. C'est Zouaoui qui va le frapper de la gauche vers la droite. Le coup de sifflet de Stéphanie Frappard. Il faut concrétiser ce temps fort hein, pour les joueurs de Didier Digard. C'est pas si souvent. C'est parti, pied gauche. Zouaoui, une tête dans la surface de réparation. Une tête Havraise, puis une tête cette Montpellier Rennes. Ça revient sur Youtay, la reprise de Youtay s'est dégagée en catastrophe. Oh là 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 là, il y avait le feu dans la défense Montpellier Rennes. Ils ont la tête sous l'eau, les joueurs de Jean-Louis Gasset. Là, il y aura une faute à Vraise, mais à Vraise forcément qui vont protester. Mais le coup franc sera au bénéfice de la défense Montpellier Rennes. 58 minutes de jeu, 0-0.
Et 2-0 pour Auxerre sur sa pelouse face à Rennes. On vient de voir dans un instant Fred Joly, mais je retourne voir Jean-Luc Roy parce que décidément, ce Grand Prix de Formule 1 du Brésil est incroyable. C'est l'hécatombe, ça ne s'arrête pas.
Eh ben oui, effectivement, Marina, tu sais, dès qu'il pleut, effectivement, c'est extrêmement piégeux. Et là, c'est Carlos Sainz, pourtant un pilote très expérimenté avec sa Ferrari. Il était dans un petit train, hein, et dans la partie médiane du tracé, la plus sinueuse, il s'est fait un peu piéger. Bon, il a fait une petite erreur quand même. On a revu les images au ralenti. Il a mis les deux roues gauches de la monoplace sur la bande blanche à l'extérieur de la piste. Évidemment, instantanément, la monoplace est partie en tête à queue et a été percutée le mur de pneumatique. Le pilote est évidemment indemne et les commissaires sont en train d'évacuer une nouvelle monoplace. Décidément, après, on rappelle que depuis le départ, eh bien, Stroll s'était mis dehors dans le tour de formation. Il n'avait même pas pris le départ. Albon, lui non plus, n'avait pas pu prendre le départ parce que Williams n'avait pas pu réparer la monoplace. Hülkenberg était parti en tête à queue. On l'a arrêté au drapeau noir parce qu'il avait été remis en course par les commissaires. On a eu Colapinto qui a tapé tout à l'heure et maintenant c'est au tour de Sainz. C'est-à-dire qu'au mieux, il reste 15 monoplaces dans ce Grand Prix, donc sous régime de safety car, avec toujours pour le moment leader, eh bien le Français Esteban Ocon. Je vais rappeler qu'évidemment Esteban compte une victoire à son actif, c'était au Grand Prix de Hongrie en 2021. Verstappen est derrière, Verstappen qui a quand même gagné 15 places depuis le départ de ce Grand Prix. Il devance Pierre Gasly qui lui aussi a fait une remontée météorique. Il est troisième actuellement, il a gagné 10 places. On trouve ensuite Russell quatrième, Norris cinquième, le poleman avec la McLaren un petit peu en retrait, il faut bien le dire, jusque là Charles Leclerc est 6ème avec la Ferrari, Oscar Piastri 7ème avec l'autre McLaren, Yuki Tsunoda avec la RB est 8ème devant Hamilton 9ème et Alonso 10ème. Et bien on va encore avoir des émotions, Marina, nous ne sommes qu'au 41ème des 69 tours de ce Grand Prix du Brésil, décidément interminable.
Elle n'est pas terminée l'histoire, à tout à l'heure Jean-Luc. La Ligue 1 mais également la Première Ligue, on est dans les derniers instants des arrêts de jeu de la première période. C'est ça, Aurélien Tirsien à Old Trafford.
20 secondes encore à jouer dans le temps additionnel. Il y avait 2 minutes, 0-0. Bon, on est à des années-lumière de la finale, par exemple, de Ligue des Champions en 2008 entre United et Chelsea. C'est clairement deux équipes qui vont mal. Manchester, encore plus, évidemment. On attend le nouvel entraîneur, Ruben Amorim, peut-être. Le ballon, deuxième poteau pour Marcus Rashford et l'international anglais. Voilà, il faut les bouger un petit peu dans les mots. Et il a touché l'arrêt de la transversale de Robert Sanchez. Mais on en reste à 0-0. C'est la première vraie situation pour Manchester United, mais c'est repoussé par la barre.
Manchester United face à Chelsea, c'est la 10e journée de Première Ligue. Et donc il y a la Ligue 1 également avec Agia, Rennes et également Le Havre, Montpellier. On va faire un petit point temps score avec vous, Fred Joly, avec toi Fred Joly pour commencer à Auxerre.
58 minutes de jeu et la Agia Auxerre mène 2-0, doublé de Gaëtan Perrin en première période. Il y a eu un changement du côté de la Agia Auxerre puisque Sinayoko a remplacé Baird à la pointe de l'attaque auxerroise.
Et Christophe Lécuyer, Le Havre, Montpellier.
62e minute à Océane, 0-0.
Une petite pause, revient l'intégral foot avec Seb Piocel, à tout de suite.
RMC Intégral Foot,
Marina Lorenzo.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'Intégral Foot avec Seb Piocel, avec deux matchs de Ligue 1 en cours et avec le score qui a bougé sur la pelouse d'Auxerre. Auxerre Rennes, c'est pour toi Fred Joly.
Alors ça n'a pas vraiment bougé, c'est assez compliqué Marina. Il y a eu une occasion, je sais ce que je vais faire, hein. Une occasion pour la Auxerre. Il y a un joueur auxerrois qui a été bousculé en surface de réparation. On a laissé continuer le jeu du côté de monsieur Angoula. Sur la contre-attaque rennaise, eh bien, il y a le but qui permet à Rennes de réduire l'écart, but de Kalu Mwendo. Mais après ce but, l'arbitre de la rencontre est appelé à aller voir la vidéo et il annule non seulement le but de Rennes, mais donne un pénalty pour la Agia Auxerre. Vous avez tout compris ou pas?
Ah oui, d'accord, ok, effectivement. Donc on n'est pas du tout sur la réduction du score.
Ah non, on est plutôt sur un...
Possiblement, ouais, pour creuser l'écart. Ouais. Ouais.
Voilà. Alors, moi j'avais déjà pris mes petites notes, on ne comprenait pas bien ce qui se passait. Effectivement, juste sur la contre-attaque qui avait été drôlement menée, hein, oui. D'ailleurs, il faut le dire, elle était belle cette contre-attaque emmenée par Jota, cette balle devant vers Kalumendo et puis ce superbe but qui permettait à Rennes de réduire l'écart. Eh mais on l'a appelé monsieur Angoula dans l'oreillette, on lui a dit qu'il fallait peut-être regarder les images car il y avait.
Je trouve peut-être sévère, penalty, moi. C'est ouais. C'est le genre de petite faute intervention qu'on voit tous les week-ends.
C'est ça. Mais oui, il n'y a pas de. Ouais.
C'est,
y a pas,
c'est voilà, encore pire parce que c'est double peine là avec le but refusé et. Alors, derrière.
Exactement. Alors oui, alors les Rennais se voyaient relancer dans cette rencontre et bien finalement ils vont peut-être en prendre un troisième. Et c'est Sinayoko qui va tirer ce pénalty. Hein. Joubal, il en avait manqué un contre Reims, donc on a préféré laisser la tâche à l'attaquant Auxerrois qui frappe. Oh, le contre-pied, le contre-pied parfait. On vous le disait, Joubal avait manqué un pénalty contre Reims et bien là il n'a pas voulu le tirer. On lui a dit bah non, écoute ce que tu ne vas pas le tirer. C'est Sinayoko qui va le tirer. Le contre-pied est parfait. Et la JOCR mène maintenant 3-0. Du côté de Rennes, on a cru à la réduction de l'écart à 2 buts à 1. Et finalement, situation complètement inversée, puisque la JOCR vient d'inscrire ce pénalty et par Sinayoko et mène maintenant 3-0 face à Rennes.
C'est plus du tout la même chose, là, ça arrive d'être plus compliqué. On a vu Julien Stéphane qui mettait en place une équipe plus offensive pour la deuxième période. Et puis là, c'est sûr qu'avec ce genre de fait de match.
Ah là, ce troisième but pour Auxerre, alors qu'on est au milieu de la deuxième période, ouais, ça tue complètement le match. En plus, le scénario un peu catastrophe pour les Rennais. Sinayoko qui a pas marqué, c'est peut-être son premier but de la saison, hein, je pense. Ça, il avait du mal hein, au début de saison.
Ouais, il a pas marqué, il a toujours pas marqué en championnat.
Mais Auxerre à domicile, c'est un vrai client.
Ça commence à devenir très sérieux, effectivement, ce promu à la maison.
Guichet fermé encore le prochain match, ça c'est sûr.
Ah ouais, c'est beau l'ambiance à Auxerre et les résultats qui suivent. En tout cas, pour l'instant, cette très bonne dynamique du promu qui mène donc 3-0 sur sa pelouse face à Rennes. Le Havre-Montpellier, Christophe Lécuyer, les deux derniers du classement. C'est rythmé, mais ça bouge pas au score.
Non, c'est un match nul qui fait les affaires de personne pour l'instant. Et ce qui ne fait pas non plus les affaires ni de Montpellier ni du Havre, c'est évidemment la victoire d'Auxerre face à Rennes. Il y aura un coup franc à suivre là pour les Havrais, 69e minute de jeu, 0-0. Des changements hein, de part et d'autre avec Adams, l'attaquant nigérian de Montpellier qui a cédé sa place à Tamari. C'était le premier changement opéré par Jean-Louis Gasset. Et puis du côté du Havre, c'est Sabi qui vient de rentrer à la place de Rasoul Ndiaye des Montpellierains qui s'était procuré une belle situation tout à l'heure, pas forcément une occasion mais une belle situation avec un ballon parfaitement donné dans la profondeur par Nordin. C'était à destination de Tamari. Il a fallu une intervention très propre de Gauthier Lloris. Il fallait pas se rater, elle était en position
sur le direct. Je crois qu'il y avait faute, mais c'est, vrai, ouais, c'est un super tacle,
ouais, hein. Moi aussi, mais effectivement l'intervention était propre, mais il fallait pas se rater Seb, parce qu'il était en position de dernier défenseur. Là, ça aurait pu être carton rouge et coup franc en cas de faute. On va suivre ce coup franc évidemment parce qu'on est à 25 mètres excentré sur le côté gauche pour les Havrais. C'est parti dans la surface de réparation, une tête montpelliéraine pour écarter le danger. On va essayer de récupérer du côté de Gauthier Lloris là-bas sur le côté droit, mais la défense montpelliéraine qui en deux temps va pouvoir éloigner le danger. On approche de la 70e minute de jeu ici, on en reste à 0-0 dans ce Le Havre-Montpellier avec des Havrais quand même qui dominent de plus en plus avec encore une fois, dommage, il y avait Sabi là qui avait fait un bon appel, mais avec un petit peu de réussite il va hériter du ballon sur le côté droit. Sabi, le centre, la surface de réparation pour André Ayou, la remise de la tête d'Ayou, peut-être la reprise encore une fois. Ouais, c'était chaud, la reprise était signée. Il y avait Targalin qui était dans la surface de réparation, il y avait Salmier qui était monté également. Oh, c'est chaud, hein, cette partie qui s'anime en tous les cas. On vient de franchir la 70e minute de jeu ici à Océane et domination des Havrais de plus en plus insistante, mais on en reste à 0-0.
Ouais, Sabi ramène de la vitesse aussi, hein, ça,
ouais. son après fait beaucoup de bien. Ouais.
Là on revoit le. Moi j'ai l'impression qu'il y a une main en fait d'un Montpellierin là.
Bah, c'est ce que réclamaient les Havrais, ouais.
Ouais, bah, là nous on revoit le ralenti, là, j'avais vu sur le direct, mais. Le bras là de Sako, ouais. Ça siffle, hein, ça a déjà été sifflé. Hein.
Ouais, sur le ralenti, ça paraît assez vite.
Ouais. Bon, on verra ce que décide Madame Frappard.
Ouais, ben on la surveille, Stéphanie Frappard. Pour l'instant, on temporise un petit peu. Alors, est-ce qu'elle va être appelée ou non par le VAR? On va surveiller ça. Elle n'indique pas la reprise du jeu. Donc, ça veut dire qu'elle peut encore, évidemment, être appelée. Elle est appelée, Stéphanie Frappard. Elle est appelée, assistance vidéo. Vous entendez évidemment la clameur des supporters havrais ici qui ont compris qu'il se passe. C'est peut-être quelque chose dans cette partie, la 70e minute de jeu. Le score qui est de 0-0 entre Le Havre et Montpellier. Et Stéphanie Frappard qui va aller voir ce qui s'est passé dans la surface de réparation. Est-ce que la main est sifflable ou non? Il y a André Ayou qui était venu jouer ce ballon de la tête. Et est-ce que le ballon rebondit sur la main de Falaï Sako?
Ah oui, il y a main. Enfin, il y a main. Après. il fait pas exprès, mais le
est-ce qu'elle est sifflable,
écarté,
ouais. Stéphanie Frappard a pris sa décision, elle va repartir vers l'aire de jeu, elle indique qu'elle va prendre sa décision et accorder un pénalty pour les Havrais. C'est peut-être le tournant de cette rencontre, la 71e minute de jeu, et alors que le score est de 0-0, un pénalty qui vient d'être accordé par Stéphanie Frappard au bénéfice des Havrais. Il est peut-être là, Seb, le tournant de cette rencontre.
Ah si, ah, si, si il marque, après quoi qu'il arrive, le match n'est pas terminé, mais là pour le coup, coup dur justement pour Montpellier, et ça permettrait au Havre de recoller un petit peu avec les Saint-Etienne et Angers par exemple.
Ouais, et c'est Abdoulaye Touré, hein, le capitaine de cette équipe havraise, qui va se retrouver face à Benjamin Lecomte pour le moment crucial de cette rencontre. 72 minutes de jeu, 0-0, et peut-être l'ouverture du score au bout du pied d'Abdoulaye Touré. Stéphanie Frappard qui fait un petit peu la police à l'entrée de la surface de réparation, qui veille évidemment à ce que tout le monde reste à l'extérieur de la ligne de la surface de réparation. Elle va aller se positionner, l'arbitre de la rencontre. On n'attend plus que le coup de sifflet de Stéphanie Frappard, et Abdoulaye Touré qui lui est d'une extrême concentration. Il va prendre sa course d'élan, le capitaine du HAC. C'est parti, Abdoulaye Touré qui s'élance, qui frappe et qui va. Le contre-pied est parfait, le pénalty est impeccablement tiré, l'ouverture du score des Havrais ici après 72 minutes de jeu. Le Havre qui vient d'inscrire un but ô combien important dans la course au maintien, 1-0 pour les Havrais ici, le pénalty transformé par Abdoulaye Touré.
Ça y est, score débloqué.
Ouais, il fallait avoir les nerfs solides hein, pour Abdoulaye Touré, très attiré à contre-pied. Alors le match n'est pas terminé, c'est encore un coup du sort aussi pour Montpellier, parce que quand rien ne sourit là, prendre ce genre de pénalty, ça sort un peu de nulle part là, la bonne détente d'Adou qui est derrière la main. Donc bon, il reste encore une vingtaine de minutes, il y a des possibilités encore pour Montpellier de recoller.
Il faut garder son calme pour les Montpellier hein. Effectivement, après ce but encaissé sur pénalty, le HAC mène donc 1-0 face à Montpellier, et la JOCR 3-0 face à Arras. Et la Formule 1, Grand Prix absolument incroyable. Jean-Luc Roy, je reviens vers toi, parce que qu'est-ce que je vois ? Verstappen est en tête.
Oui, absolument, Marina. Oui, bah, il a placé un freinage extraordinaire, hein, comme il sait le faire. Alors, c'est vraiment le meilleur. Là, on a l'impression que les autres sont sur une piste mouillée et lui sur une piste sèche, ouais, quasiment. Il vient à nouveau de pulvériser. Et tiens, à l'instant où je te parle, encore au 51e tour, c'est lui le plus rapide. En 1 minute 22 secondes et 43 millièmes, il tourne actuellement entre 6 dixièmes et 1 seconde plus vite que l'ensemble du plateau. C'est dire qu'il a creusé un écart sur Esteban Ocon de près de 6 secondes maintenant. Ocon toujours deuxième, Ocon qui précède l'autre alpine, certes de Pierre Gasly. Pour le moment, on est sur le podium du côté des hommes d'Alpine. Lui est à 3 secondes et demie d'Esteban Ocon. Le quatrième, c'est George Russell. Mais attention, la Mercedes se rapproche petit à petit de la boîte de vitesse de l'alpine de Gasly. Le cinquième, c'est Charles Leclerc. Alors il est assez loin, lui, il est à 6 secondes de la Mercedes de Russell. Et puis on a Lando Norris qui a commis une erreur tout à l'heure au moment de la relance. Il est sorti très large dans les S de Senna. Il a récupéré la piste de manière un peu acrobatique, et on a d'ailleurs intimé l'ordre à Oscar Piastri de laisser repasser le leader d'équipe McLaren. Ça fait deux consignes d'équipe en un week-end, décidément. Piastri doit ravaler évidemment pour le moment sa bonne humeur. Norris est donc 6e, Piastri 7e, Tsunoda 8e avec la RB, Lawson 9e, et on retrouve les joyeux duettistes justement, Liam Lawson et Sergio Perez. Tu sais qu'il y avait eu des étincelles là aussi du côté du Mexique. Eh bien, c'est au moins le troisième duel qui oppose le jeune néo-zélandais de RB et le deuxième homme de chez Red Bull. Est-ce que Perez va trouver l'ouverture ? En tout cas, il est à moins de 3 dixièmes pour le moment du néo-zélandais. Rien n'est joué. On est dans le 52e des 69 tours de ce Grand Prix du Brésil, décidément animé comme jamais.
Incroyable ce Grand Prix. Jean-Luc, il reste une vingtaine de minutes environ sur les pelouses de Ligue 1. Tant un point, un score, étant avec toi, Fred Joly, Algia Rennes.
La 28e en seconde période, et la JOCR mène 3-0, doublé de Perrin en première période, pénalty de Sinayoko à la 65e.
Christophe Lécuyer, le Havre Montpellier.
La 77e minute de jeu ici à Océane, le Havre qui mène 1-0, le pénalty qui a été transformé il y a quelques minutes de cela par le capitaine Abdoulaye Touré.
Allez, on vous retrouve dans un instant, tous sur les terrains de Ligue 1 et de Première Ligue, et la Formule 1, ça revient dans un instant. L'intégrale foot, petite pause.
C'est Intégral Foot,
Marina Lorenzo.
Avec Seb Piocel toujours, et avec ces deux matchs de Ligue 1 que l'on suit, Auxerre-Rennes et Le Havre-Montpellier, avec des buts sur toutes les pelouses. Fred Joly, toi t'es à Auxerre-Rennes.
77 minutes de jeu. Auxerre mène 3-0 et les Rennais ont pris un petit coup derrière la tête hein, avec ce troisième but auxerrois. Je crois qu'on appelle ça un ascenseur émotionnel en psychologie. Ils ont cru qu'ils allaient revenir à 2-1 et finalement, en l'espace d'une minute, ils sont passés à 3-0. Autant dire que c'est assez difficile pour les hommes de Julien Stéphan et du côté d'Auxerre. Ça leur a donné le moral. Hein. On a vu de belles choses de la part de cette équipe auxerroise avec le corner, un corner entre autres et la tête de Joubal qui a été captée par Mandanda. Voilà, la JOCR certes souffert au retour des vestiaires, mais il semblerait que les Bourguignons ont retrouvé le bon rythme. Ils mènent 3-0 face à cette équipe des Rennes avec ce doublé de Perrin et ce pénalty de Sinayoko après 78 minutes de jeu à la Baie des Champs.
Ouais, un bon rythme qui se confirme. Il y a Marseille hein, la semaine prochaine pour cette équipe d'Auxerre.
Ouais, c'est pour ça que c'était important de faire le travail face à une bonne équipe, enfin un club comme Rennes aujourd'hui. Et puis c'est une équipe même au Vélodrome, encore une fois on va voir Marseille ce que vont faire les Marseillais ce soir à Nantes, mais face à une équipe comme l'OM, il y aura des espaces et cette équipe d'Auxerre elle est très très bon dans les contre-attaques avec beaucoup de vitesse. Et moi je trouve que c'est une équipe même assez joueuse quand ils ont le ballon, c'est plutôt intéressant ce qu'ils proposent.
Un petit point également au Havre, le Havre-Montpellier, Christophe Lécuyer.
On a la 81e minute de jeu, 1-0 pour les Havrais qui n'ont plus connu cette situation depuis longtemps. Hein. Didier Digard et ses joueurs menés au score, pouf, on avait presque oublié ce que ça faisait, ce pénalty transformé tout à l'heure, effectivement par Abdoulaye Touré. Alors on va tenter le tout pour le tout du côté de Jean-Louis Gasset. On a fait sortir Tchato et Nzingula, deux milieux de terrain remplacés par Koulibaly et Touré. Un milieu de terrain et un attaquant, on va forcément porter des forces vives alors que du côté du Havre, c'est Kouzaïev, l'international russe qui vient de remplacer Targaline. 30e but concédé quand même hein, tout à l'heure par la pire défense de Ligue 1 sur ce pénalty. Ils ont toujours encaissé au moins un but, les Montpellierains, depuis le début de la saison. Bon, pour l'instant, ils avaient réussi un clean sheet qui se dessinait, mais voilà, il a fallu ce pénalty pour faire craquer la défense. Il reste un petit peu plus de 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire et le Havre qui, pour l'instant, tient bon ce but d'avance. 1-0 pour les Normands.
Ils peuvent avoir les ressorts, Seb, les Montpellierains, là, pour revenir dans cette situation au Stade Auxerre.
Là, comme là, il y a un coup de pied arrêté, ils ont des joueurs de taille donc comme Simovic qui vient d'arriver, donc ça peut se jouer aussi là-dessus.
Ouais.
Jean-Louis Gasset, il fait rentrer tous ses joueurs offensifs. Ouais, pourquoi pas. Et puis bon, il faut voir comment le Havre va gérer aussi cette fin de rencontre. Comme disait Christophe, ils sont plus habitués non plus à mener au score. Et comme là, on arrive vraiment en fin de match, dans les arrêts de jeu.
Est-ce que ça va tenir physiquement, c'est ça?
Non, plutôt mentalement. Oui. Physiquement, je pense qu'ils sont prêts, mais c'est mentalement. Le fait de garder ces trois points-là, les Montpellierains, je pense qu'ils vont essayer de mettre la pression sur cette fin de rencontre.
Wabi Kazri pour le coup franc, le ballon dans la surface de réparation, ça revient sur Jordan Thierry, la frappe a été contrée, elle est vraie qui se dégage, mais ça va revenir encore une fois dans les pieds des Blancs avec un bon ballon là-bas sur le côté. On va retrouver Birama Touré qui vient de rentrer, le centre, c'est dégagé par une tête havraise. Ça va être fort à l'amour hein, si on doit jouer encore les 10 dernières minutes comme ça. Pour l'instant c'est attaque défense quasiment, les Montpellierains qui ont le ballon toujours. On va passer de la gauche vers la droite, on va repartir sur Wabi Kazri. Wabi Kazri qui va aller fixer la défense havraise. Wabi Kazri, le centre. Encore un centre dans la surface de réparation. C'est dévié de la tête, ça passera à côté. Début de Desmas. C'est chaud pour la défense havraise qui plie mais ne rompt pas pour l'instant. Il reste 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Toujours 1-0 pour les Havrais.
Ça promet en tout cas.
C'est ce que je disais, il ne faut pas trop reculer. Alors, mais après c'est humain, surtout quand on n'a plus l'habitude de mener au score et qu'on sait que ces 3 points-là ils sont hyper importants pour la suite. Et on se demande pourquoi Montpellier ne fait pas ça depuis un quart d'heure, 20 minutes. Là. On attend les dernières minutes justement pour se jeter vers sur le but à vrai.
Aurélien Tiercin, la Première Ligue, Manchester United, Chelsea.
Ça bouge pas beaucoup, 0-0, 52 minutes de jouer et Marc Cucurella, le champion d'Europe espagnol, obtient un corner pour Chelsea depuis la gauche et je le cite parce qu'il a remplacé Malo Gusto, l'ancien Lyonnais, qui a vécu une première période assez compliquée, beaucoup de ballons perdus pour le latéral droit, donc sorti à la pause par Enzo Maresca. 0-0 entre Manchester United, 13e de Première Ligue seulement, 13e, et Chelsea 6e de son côté.
Et la Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil, Jean-Luc Roy et Max Verstappen qui creuse un peu l'écart.
Ah oui, oui, là, oui, il fait clairement un boulot remarquable. Hein. Ouais, il est en tête du Grand Prix donc depuis tout à l'heure, depuis le restart derrière le régime de safety car. Et nous sommes au 58e des 69 tours de ce Grand Prix. Et là, il vient d'en remettre une couche. C'est lui l'homme le plus rapide en piste. Il vient de battre et de rebattre le record du tour. 1 minute 21 secondes et 862 millièmes. Il a porté son avance à près de 10 secondes maintenant sur Esteban Ocon, toujours vaillant deuxième, qui précède Pierre Gasly. Mais Pierre Gasly doit commencer réussit à repousser les attaques maintenant de George Russell avec la première des Mercedes. Donc bataille pour la troisième place entre Gasly et Russell. Derrière, on a une Ferrari esselée, celle de Charles Leclerc, bien sûr, qui est cinquième. Il a 7 secondes et demie d'avance, 7 secondes de retard sur Russell et près de 2 secondes d'avance sur Norris. Alors Norris, il essaie de revenir, hein, mais il a beaucoup de mal pour le moment à revenir sur la Ferrari. Il précède Piastri depuis tout à l'heure. Ensuite, on a les deux RB de Tsunoda, le japonais, 8e, et Liam Lawson, 9e, le néo-zélandais, alors qui a repoussé très violemment une attaque de Perez. D'ailleurs, ça a tellement déstabilisé Perez que Lewis Hamilton lui a pris sa 10e place. Donc voilà pour le moment les positions dans ce Grand Prix. Il reste 10 tours à parcourir et rien n'est encore joué parce que, évidemment, on est toujours à l'affût d'une moindre faute et il y en a eu pas mal hein, pendant ce Grand Prix.
Rien n'est encore joué en Formule 1, rien n'est encore joué entre Le Havre et Montpellier, Le Havre qui mène 1-0 en revanche pour la GIA face à Rennes. Bon, bah ça semble presque plié, Fred Joly, 3-0 toujours pour la GIA.
Ouais, il reste 7 minutes à jouer, c'est vrai que ça paraît bien parti pour cette équipe auxerroise qui mène 3-0 avec peut-être la contre-attaque des Rennais. Ce ballon sur le côté vers Kanyumwendo qui est pris tout de suite par Dozeser. Elle peut trouver malgré tout du soutien dans l'axe avec Santa Maria. Santa Maria qui décale complètement à droite. On cherche une solution du côté de Rennes, mais c'est compliqué. Tous les Auxerrois sont revenus défendre, même si Nayoko est redescendu. Il y a un vrai rideau, un vrai mur auxerrois. Et les Rennais ont vraiment du mal à s'approcher du but de Léon. L'avantage est pour Auxerre. Il mène 3-0 à 7 minutes de la fin de cette rencontre.
Seb, c'est Rennais. Bon, bah, évidemment, là, il reste très peu de temps pour revenir. Comment on termine ce genre de match?
Bah, j'ai envie de dire du mieux possible avec les joueurs qui sont sur le terrain, les entrants. On sait que justement quand on rentre dans ce type de match-là, on a peut-être des points à marquer aux yeux de l'entraîneur si c'est toujours lui après la trêve internationale dans une semaine. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi quand même se poser la question à un moment donné avec l'effectif qu'a à sa disposition Julien Stéphan. Est-ce que c'est satisfaisant? Je disais tout à l'heure, il faut laisser un petit peu de temps, mais voilà, Rennes fait un début de saison très très moyen. C'est pas dans les standards un peu de ce club-là depuis pas mal d'années et qui est habitué à jouer les places européennes.
11 points en 10 matchs pour l'instant.
Ouais, c'est pas beaucoup hein, vraiment. Et quand on sait que voilà une équipe comme le Havre là qui s'ils gagnent là, ils vont avoir 9 points qui seront avant-derniers, donc comme quoi ils sont vraiment en bas du classement, donc. Compliqué le début de saison du Stade Rennais.
Ouais, c'est vrai que là, quand on regarde le classement, comme tu dis, les victoires annoncées, d'Auxerre et de Toulouse qui font basculer Rennes dans
cette fin de classement.
Danger pour les Rennais et les Nantais. Le Havre face à Montpellier. Il reste encore quelques minutes dans le temps réglementaire avec toi, Christophe Lécuyer.
Ouais, 2 minutes 30 très précisément, mais il y aura pas mal de temps additionnel et un nouveau changement du côté de Montpellier avec la rentrée de Junior Ndiaye à la place de Sagnan. Il lance tous ses joueurs offensifs dans la bagarre, hein, Jean-Louis Gasset. Là, on va finir à 4 attaquants du côté de l'équipe de Montpellier. On va retrouver Arnaud Nordin là sur le côté droit qui va aller encore percuter, centrer. Le ballon dans la surface de réparation, c'est dégagé par Étienne Youté en corner. Non, c'est corner touche.
Ils jouent plus le Havre. Hein.
Ils ont complètement reculé, Seb. Je suis complètement d'accord. Ils ont littéralement reculé, beaucoup trop. D'ailleurs, à mon sens, les joueurs de Didier Digard. Et comme tu disais, c'est naturel aussi. Je pense pas qu'ils font forcément exprès. C'est qu'ils n'ont plus l'habitude de mener, que forcément on s'accroche à ce but ô combien important. Et pourtant Didier Digard, il ne cesse de leur dire avancez, avancez. On essaie de ne pas trop subir, évidemment, sur cette fin de match. Encore un centre Montpellier dans la surface de réparation, c'est dégagé par la tête de Gauthier Lloris. Ça fait du bien, l'intervention de Lloris. Et il y a un contre à jouer avec Kechta, avec encore une fois la générosité cet après-midi d'André Ayou. Hein. Il n'a pas.
Il leur fait du bien aussi pour tenir le ballon.
Ah ouais.
C'est voilà, mais il est aussi sur l'action qui amène le pénalty parce que c'est lui qui fait la remise de la tête. Non, il a un profil un peu atypique, André. Et c'est vrai que bah, que ce soit l'an dernier quand il est arrivé ou là depuis qu'il est de retour, ça peut être une bonne arme pour le Havre pour le maintien.
Ah ouais,
et
puis moi je trouve que c'est un modèle d'état d'esprit. Hein. 34 ans, franchement, il y a plus d'un jeune attaquant qui peut en prendre exemple parce que il a pas forcément énormément de ballons à négocier devant, mais il multiplie les courses à vide et il défend aussi très souvent lorsqu'il faut prêter main forte au bloc équipe. Enfin, franchement, dans l'état d'esprit à 34 ans, c'est remarquable ce qu'il fait André Ayou. Il reste une minute à jouer dans le temps réglementaire. Des Havrais plutôt bien en place, même si on a tendance à reculer, mais ils vont défendre à 11. Évidemment, les joueurs de Didier Digard pour enrayer cette spirale de 6 défaites consécutives. 30 secondes encore dans le temps réglementaire. 1-0 pour les Havrais ici.
Ouais, on va rester peut-être un peu avec toi, Christophe, parce que c'est vrai que le suspense est de ton côté, Auxerre qui se dirige vers sa victoire face à Rennes, alors que là, Seb, bon, bah, alors évidemment, là, on voit que les Havrais y reculent, donc tout est possible là maintenant.
Ah ouais, ben ils ont une carte à jouer. Il faut qu'ils s'appliquent là dans le dernier geste, les Montpellierains. Il n'y a pas vraiment d'occasion nette. Tout à l'heure, il y a une bonne frappe là avec la parade de Desmas. Là, ça a donné un corner. Mais tout à l'heure, Christophe, tu disais que c'était Digard qui demandait à ses joueurs d'aller plus haut. Il faut que ce soit les joueurs sur le terrain, un Gauthier Loris qui demande justement de pousser, d'aller un peu plus haut pour s'éloigner de leur surface de réparation.
6 minutes de temps additionnel, Marina et Seb. 6 minutes indiquées. Ouais, ça va être long. Ça va être très très long pour Didier Digard. C'est vrai que tout à l'heure, Sako et Touré ont donné quelques sueurs froides quand même à la défense havraise. Il a fallu un très bon Arthur Desmas. En tout cas, ils sont là dans la bagarre. Hein, les joueurs du Havre dans l'entrejeu. Abdoulaye Touré qui fait un énorme match aussi aux côtés de Kechta, de Targaline qui certes est sorti, mais qui a aussi été très généreux dans l'entrejeu. Mais Yassine Kechta, vraiment encore une fois, là, il vient défendre, il vient prêter main forte à ses défenseurs. Les Montpellierains qui ont un petit peu trop de déchets techniques là dans cette fin de match. Il y a potentiellement de la fatigue aussi, évidemment, du côté des joueurs de Jean-Louis Gasset. Le ballon est sorti du terrain. Ce sera une touche, une remise en jeu en faveur des Havrais. On est dans le temps additionnel. Il y avait 6 minutes. Il y en a une découlée. Il ne cesse de regarder sa montre et son chronomètre. Didier Digard, j'imagine qu'il va trouver le temps très très long.
Hein. Il y aura le coup de sifflet final là. Si jamais le score demain restait là, forcément, les Havrais seront déjà rassurés pour bien travailler la semaine prochaine.
Christophe, on revient vers toi dans un instant pour vivre les dernières minutes de ce match Le Havre-Montpellier. Jean-Luc Roy pour la Formule 1, c'est au Brésil que ça se passe. On approche de la fin de ce Grand Prix et du verdict final avec un joli podium hein, si ça se termine ainsi.
Ah oui, si ça reste comme ça, Marina, effectivement, on pourrait avoir deux Alpines, deux Français sur le podium de ce Grand Prix du Brésil pour accompagner Verstappen qui vient à nouveau de signer le meilleur tour en course. C'est le 64e tour, 1,21 et 69 millième. Il a creusé un écart de 14 secondes maintenant sur la première des deux Alpines, celle qui est pilotée par Esteban Ocon. Il y a 3 secondes 6 exactement d'écart entre Ocon et Gasly. Gasly qui doit toujours repousser les attaques et la pression de la Mercedes de George Russell, quatrième pour le moment. Derrière, on a Charles Leclerc, toujours solitaire, cinquième avec la Ferrari. Et puis une petite anecdote rigolote, comme on les aime, parce que Lando Norris, qui est actuellement sixième devant son collègue Piastri de chez McLaren, vient de recevoir un ordre de la part de son ingénieur qui lui a dit, est-ce que tu peux essayer de te rapprocher de Charles Leclerc, parce que Piastri a pris une pénalité de 10 secondes et on voudrait le mettre à l'abri. Et il lui a répondu évidemment à son ingénieur. Norris lui a dit, tu crois que je lis le journal, en gros? Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Donc il est à l'attaque absolue. Non, non, mais j'adore quand les ingénieurs disent aux pilotes, tu peux pas aller plus vite.
Non.
Ouais. C'est vraiment clownesque. C'est vraiment clownesque. Il faut bien arriver à rire de temps en temps. Bref, en tout cas, Norris 6ème. On est un peu à la peine hein, chez McLaren. Bah oui, tu vois, on domine très fort sur le sec. Mais ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire que dès que les pistes sont mouillées, eh bien, ça nivelle les valeurs des mécaniques et c'est le talent des pilotes qui revient en avant. Et on voit bien que Verstappen, pour le moment, il est intouchable. Tiens, 1,21,029 à l'instant, dans le 65e tour. Nous sommes à 4 tours de l'arrivée. Ocon, toujours deuxième, à 14 secondes 8. Gasly derrière, à 3 secondes 5. Gasly qui a repoussé un tout petit peu Russell pour le moment. Tant mieux, ça pourrait nous valoir les deux Alpines sur le podium. Je le répète, Russell, 4e avec la Mercedes. 5e, la Ferrari de Leclerc. 6e et 7e, les deux McLaren de Norris et Piastri. 8e et 9e, les deux RB de Tsunoda et Lawson. Et pour le moment, Hamilton doit se contenter du point de la 10e place, juste devant Pérez. Mais Pérez lui met la pression dans les derniers tours. Il reste 4 tours à parcourir dans ce Grand Prix du Brésil, absolument disputé jusqu'au bout.
Et sur la Ligue 1, il reste 5 minutes dans les arrêts de jeu du côté de la JOCR face à Rennes. Il reste un peu plus de 2 minutes sur la pelouse du Havre avec toi, Christophe Lécuyer, face à Montpellier.
Ouais, effectivement, on est dans le temps additionnel. Il reste, ouais, c'est ça, 2 minutes sur les 6 accordés par.
C'est une belle occasion, hein, Christophe, hein, de Sabi, là. Il a
ouais,
reçu,
ouais, on était tout près du 2-0 ouais. Pour les Havrais. Hein. Le petit ballon magnifique de Kouzaïev par-dessus la défense. Montpellier-Rennes qui profite à Sabi. Il y a un arrêt au bout du pied, de Benjamin Lecomte. Là, si ça faisait 2-0, évidemment, c'était plié. Mais là, les Montpellierens sont à l'attaque, le centre. La tête, elle passe à côté. Oui, on va trembler. Elle a été touchée. Ce ballon a été touché par un vrai. Ce sera un corner, indique Stéphanie Frappard. Les Havrais sont pas d'accord. Ils estimaient que c'était une sortie de but. Ben, il y aura un corner. On va encore trembler dans la défense. Havrais, évidemment, avec ce corner que va aller frapper Wahbi Khazri de la droite vers la gauche.
petite balle de Sinayoko pour Ado. On est où? Le plat du pied, c'est tranquille, c'est parfait. Et la JOCR mène 4-0 face à Rennes.
Et ben voilà, le quatrième.
Ouais, puis c'est une action, j'ai envie de dire, à la Austéroise, hein. Encore une fois, beaucoup de vitesse, beaucoup de changement de rythme, et puis des espaces dans le dos de la défense rennaise. Sous leur souris, je suis pas sûr du coup que Stéphane résiste à 4-0 à Auxerre.
Effectivement, ça fait un peu dur.
Ouais, ça risque d'être compliqué pour lui après ce long résultat-là.
Corner pour les Montpellier hein, ici au Havre. Il reste une minute dans le temps additionnel. C'est Birama Touré qui est rentré sur cette seconde période, qui va le frapper de la gauche vers la droite. Birama Touré au second poteau, la sortie de Desmas dans les airs pour s'imposer. Oh que ça fait du bien quand son gardien va chercher le ballon comme ça pour s'imposer en l'air et récapter ce ballon, le poser tranquillement au sol. Évidemment, le chronomètre qui tourne en faveur des Havrais. Des Havrais qui, on le rappelle, n'ont plus gagné depuis le 1er septembre. Et c'était justement face à la JOCR, un succès 3-1 ici au stade Océane. On temporise, on calme autant qu'on le peut dans cette fin de match, le temps additionnel qui est quasiment écoulé. Maintenant on va surveiller le chronomètre de Stéphanie Frappard. Il reste 20 secondes dans le temps additionnel. André Ayou qui a le ballon là-bas et qui essaie de le garder, de le protéger. Évidemment, c'est très intelligemment joué encore une fois de la part d'André Ayou. Il a obtenu la remise en jeu en sa faveur, non? Si, elle sera à Vraise. Les Montpellierains qui s'agacent parce que les ramasseurs de balles ne donnent pas le ballon. C'est une scène cocasse. Je crois qu'ils ont des consignes, les ramasseurs de balles. Ils ont compris qu'il fallait pas évidemment redonner le ballon. C'est fini, fin du match, c'est fini effectivement. On s'est regardé, on ne savait pas si Stéphanie Frappard avait définitivement donné le coup de sifflet. Fin du match et victoire très précieuse du Havre, 1-0 cet après-midi face à Montpellier. Il a suffi d'un petit but, d'un pénalty transformé par Abdoulaye Touré à la 73e minute de jeu. Le Havre qui met fin à 6 défaites consécutives. En revanche, eh bien, évidemment, le choc psychologique se fait toujours attendre du côté de Montpellier qui eh bien, connaît une 5e défaite de rang cet après-midi ici en Normandie.
Dur pour Montpellier effectivement, et le soulagement du côté de Didier Digard et du HAC après ce succès à l'arraché, 1-0 face à Montpellier. La Formule 1, Jean-Luc, je reviens vers toi parce qu'on va vivre ensemble la fin de cette course et le podium, parce qu'il s'annonce très très intéressant.
Oui, si ça reste comme ça, Marina, c'est effectivement fabuleux. Et puis c'est très intéressant au classement constructeur, comme tu le sais, puisque du coup ça va rapporter de très gros points à Alpine, qui pourrait, tiens-toi bien, d'après mes calculs, s'emparer de la 6e position. Parce que pour le moment, eh bien, Alpine avec 16 points est assez loin. Mais là, avec les points de la 2e et de la 3e position, si ça reste en état, eh bien il pourrait remonter jusqu'à la 6e place du classement constructeur, ce qui serait absolument fabuleux. Fabuleux. Mais devant, eh bien, nous sommes dans le 68e des 69 tours de ce Grand Prix. Et Verstappen en rajoute et en rajoute des couches. Nouveau record du tour pour le leader de ce Grand Prix. Il a remonté 16 places dans ce Grand Prix du Brésil. 1 minute 20 secondes et 472 millièmes pour Verstappen. Ça pourrait être la 62e victoire de la carrière de pilote de Formule 1. Et puis là, évidemment, ça va le placer très favorablement hein, pour la fin de la saison 2024, puisque Lando Norris n'étant que 6e, et on ne voit pas trop puisqu'il est à 2 secondes et demie maintenant de Leclerc, de quelle manière il pourrait gagner du temps et de la place. Donc ça veut dire que Verstappen va creuser à nouveau l'écart, je pense de l'ordre de 18 points. On pourrait porter son avance à 62 points au classement général provisoire du championnat du monde à 4 grands prix de l'arrivée. Alors évidemment, l'opération serait extrêmement fructueuse pour Verstappen, qui sera le seul a priori une nouvelle fois à marquer des points pour Red Bull, puisque Pérez reste toujours dans le sillage d'Hamilton pour la 10e position. Mais évidemment, le coup de projecteur, on va le donner sur les Alpines. Les Alpines de Esteban Ocon, toujours 2e, même s'il est à 18 secondes et demie maintenant de Verstappen, qui tourne beaucoup plus vite. Hein. Il tourne 6 à 7 dixièmes au tour plus rapidement qu'Esteban Ocon. Ocon a près de 3 secondes d'avance sur Gasly. Et je l'ai dit, Gasly pour le moment contient parfaitement les attaques de George Russell. Et comme les pneumatiques eh bien, ont 36 tours maintenant depuis le restart, je pense que ça devrait pouvoir tenir pour Pierre Gasly. Un double podium potentiel pour Alpine. Nous sommes entrés dans le 69e et dernier tour de ce Grand Prix du Brésil. Décidément très animé du début à la fin, avec cette interruption au drapeau rouge tout à l'heure. Et Verstappen aura montré toute sa puissance hein, parce que vraiment dans ces conditions, pouvoir remonter 16 places comme ça, c'est absolument exceptionnel. Surtout que je le répète, il n'a pas du tout la meilleure monoplace hein. La meilleure monoplace, c'est la McLaren. Et on voit que les pilotes McLaren eh bien, ont vraiment déçu sur ce Grand Prix. parce que Lando Norris qui avait la pole position et qui avait été devancé donc au moment du restart, eh bien Lando Norris a beaucoup glissé dans ce Grand Prix. Il va terminer à plus de 30 secondes, même si on a intimé l'ordre à Oscar Piastri de le laisser passer, eh bien Oscar Piastri va terminer dans les roues de son leader, en maintenant également Tsunoda derrière et Lawson derrière. On est maintenant dans les derniers mètres de ce Grand Prix du Brésil, circuit long de 4 km 309. Je rappelle que l'an dernier, eh bien c'était également Verstappen qui s'était imposé, mais après avoir signé la pole position, George Russell avait tenu la tête juste avant l'interruption au drapeau rouge. Eh bien Russell lui devrait terminer quatrième de ce Grand Prix. Voilà les derniers mètres maintenant pour Verstappen qui va remporter la 62e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Un Grand Prix du Brésil absolument incroyable pour le leader du championnat du monde qui devrait porter son avance à 62 points. Là on peut dire qu'il a tapé un grand coup sur le casque de Lando Norris évidemment. Le deuxième, eh bien ça va être Esteban Ocon maintenant qui va franchir la ligne, une vingtaine de secondes derrière Verstappen. Voilà Esteban Ocon après sa victoire. Il a une victoire au compteur, c'était au Grand Prix de Hongrie en 2021. Eh bien il montera sur le podium Esteban, lui qui était vraiment très loin et qui avait du mal avec une monoplace qui était en retrait. Et puis on va placer Pierre Gasly sur l'autre marche du podium, la troisième. Magnifique tir groupé des pilotes alpines au deuxième et troisième rang. George Russell va terminer quatrième avec la Mercedes. Russell qui était parti sur la première ligne avec la deuxième position. Et puis Charles Leclerc, un solitaire cinquième avec la Ferrari. Et au dernier moment, eh bien Tsunoda est parvenu à passer Piastri pour la septième position. Norris sixième, Tsunoda septième, Piastri huitième, Lawson neuvième, Hamilton prend le point de la dixième place. Quel Grand Prix du Brésil, Marina, absolument fantastique du début à la fin.
Il a été incroyable et on va le débriefer dans Bartoli Time dans un instant, bien sûr, débrief de ce Grand Prix avec toi Jean-Luc et avec la team de Bartoli Time. La Ligue 1, ça y est, c'est terminé sur la pelouse de la JOCR, mon cher Fred Joly face à Rennes, et c'est un carton du promu.
Eh oui, la victoire 4-0. Christophe Pélissier, le coach auxerrois, disait au bout de 3 matchs positifs, on peut parler de série. Eh bien, c'est une petite série qui vient de réaliser les Auxerrois en signant 2 victoires et 1 nul sur ces 3 matchs. 7 points pris sur 9 possibles. La victoire 4-0 avec le doublé de Perrin, le pénalty de Sinayoko et le 4e but inscrit par Ado Onaewu. La JOCR s'impose largement face au Stade Rennais. 4-0.
Merci Fred Joly, merci à Christophe Lécuyer également du côté du Havre. 1-0 pour Manchester United face à Chelsea. Voilà, pour être tout à fait complet sur les matchs que l'on a suivis ensemble dans cette Intégral Foot. Merci beaucoup Seb.
Merci à vous.
À la semaine prochaine dans l'Intégral Foot Bartoli Time. Tout de suite, le débrief du Grand Prix de Formule 1 bien sûr, mais aussi des invités de marque comme tous les dimanches. Louis Biel-Biarré pour parler rugby, joueur du 15 de France et Alexander Zverev, oui messieurs dames, rien que cela, il a battu le français Hugo Humbert il y a quelques heures et il sera en direct dans Bartoli Time tout de suite avec Marion Bartoli et Benoît Boutron. Salut à tous, bonne émission.
RMC, 19h-20h, Bartoli Time.